Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hello! Bienvenue dans le podcast Intention. Mais en fait, on parle de quoi dans ce podcast?
Et si on arrive juste à donner un peu de bon sens aux gens, bah pour moi, ça, c'est aller vers une alimentation plus saine.
Est-ce que vraiment, encore vous répéter que nous, le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie?
C'est en dehors de notre zone de confort que s'opère toute la magie de la vie. Et les amis, c'est tellement life-changing.
Montrer sur les réseaux que être entrepreneur, c'est archi chouette. Ça, c'est clair et net.
Donc, en fait, tout revient toujours à l'alimentation. Encore une fois, c'est incroyable.
Notre santé, c'est 90% l'alimentation.
Ouais, c'est fou.
Et voilà, c'est ça l'ambition de notre podcast. Alimentation saine, épanouissement personnel, entrepreneuriat. On parle de tout ça sans filtre.
Bonne écoute!
Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Bonjour Marisa.
Coucou Isadora.
Bonjour Anaï.
Salut les filles.
Est-ce que vous allez bien déjà les filles?
Bah moi ça va très bien.
Ouais.
Moi je suis au top de ma forme moi.
Moi aussi écoute. Donc c'est
bien. Et ben super. Alors comme d'habitude j'aime bien vous dire un petit peu qui est l'invité, l'invité mystère, Anaï. Pas par rapport à toi qui va nous dire qui tu es, hein, mais moi. De comment je t'ai rencontrée, comment j'ai su qui tu étais. C'était grâce au podcast de Génération XX. Ça date, je pense, c'était quand d'ailleurs ? Le 27 février 2019.
2019 ?
Tu te rends compte, ça fait longtemps.
On a une bonne mémoire alors. Vraiment.
Pour retrouver les gens, t'as vu comment on a débusqué Anaïs,
c'est clair. 2019, le truc qu'on a écouté il y a quand même plusieurs années, quand on l'a redébusqué, hein.
Ouais, plus de 3 ans. On avait écouté ton épisode avec Génération XX, donc avec Siam. C'est l'épisode, si vous voulez aller écouter, 64 de Génération XX. Et je me souviens qu'il nous avait vachement percuté avec Marisa à cette époque-là. Il nous avait percuté cet épisode parce que Génération XX faisait beaucoup donc, d'interviews de femmes entrepreneurs. Mais c'est vrai que c'était très souvent des épisodes avec des success stories, des choses assez, assez incroyables. Et quand j'avais écouté le tien, j'avais adoré parce que je me suis dit « Ah, bah pour une fois, on parle d'un échec, entre guillemets, et non pas toujours de quelqu'un qui a réussi. Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat aujourd'hui est hyper valorisé. C'est hyper valorisant d'être entrepreneur. C'est génial d'être entrepreneur. Mais quand on quitte sa boîte, quand on ferme sa boîte, parfois, on ne sait même pas. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la personne disparaît, tu ne sais pas. Et toi, c'était hyper intéressant d'avoir un point de vue de quelqu'un qui ferme son entreprise et qui dit pourquoi. Ça, c'était hyper intéressant. Et comment t'as redécouvert après ?
Bah, tout simplement parce que après, moi, un jour, on parlait avec Isadora, puisque tout le monde sait qu'on était un peu perdu, etc. On parlait avec Isadora de cet épisode de. Non, je crois qu'on parlait du fait de se dire, les gens qui finissent, on sait jamais ce qu'ils deviennent après, parce que souvent, ils disparaissent de la nature. Et on se dit, tu te souviens ? Et on se souvenait très bien de ton prénom, parce que t'as un prénom très joli qui est quand même peu original. Commun, original. Donc, je me suis souvenu d'Anaï, je savais très bien que c'était Anaï. Et je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, tu vois? Et donc, j'ai débusqué, on est parti sur LinkedIn, je sais plus comment. Et on est tombé sur un article que tu avais écrit, du coup, sur Medium. Les gens vont dire, mais elles sont toujours sur Medium, les filles, parce qu'à chaque fois, on a toujours en ressources des trucs Medium. Et t'avais appelé cet article qui s'appelle La vie d'après, qui était d'ailleurs posté en janvier, là, de cette année, qui s'appelait La vie d'après, où tu as parler de ton parcours, bah, 3 ans après la fermeture de ton entreprise. Et là, on s'est dit, waouh! Donc, il y a une vie après! Il y a une vie qui peut être en plus épanouissante et tout. Donc, on s'est dit, Isadora, il faut qu'on te contacte. Bref, nous, on t'a contacté. On a eu une visio toutes les trois en off, hyper enrichissante pour nous. Et on s'est dit, non, il faut qu'on fasse un épisode avec toi pour nos entrepreneurs dans le noir, comme tu les appelles, entrepreneurs in the dark dans ton.
In the dark.
Ouais, j'aime bien. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte depuis quelques temps, donc, quand on parle de nos questionnements sur la vie d'entrepreneur, beaucoup, en fait, vous venez beaucoup nous dire en MP sur Instagram, et moi aussi, je comprends tout ce que, de par quoi vous passez, c'est pareil, c'est pareil. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas un petit épisode avec Anaï avant la rentrée pour vous donner des un petit peu de good vibes, de vous dire qu'il y a une vie après, ne vous inquiétez pas, et qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de changer, on a le droit de revenir sur sa décision, de, enfin, on a le droit, tout est entre nos mains, quoi. Donc, peut-être que d'abord, Anaï, qui es-tu? Qui es-tu, Anaï? Où es-tu, Anaï? Que fais-tu, Anaï?
C'est toujours difficile, ce genre de question. Qui suis-je? Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, effectivement, je suis toujours entrepreneur. Après, j'expliquerai, mais effectivement, de façon différente, j'ai envie de dire, de ce que j'étais avant. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui m'ont connue à travers la bibliothèque, la première boîte que j'avais montée en 2014 et que j'ai fermée en 2018. Et donc, c'est suite à ça que j'avais fait le podcast avec Siam pour justement expliquer la fermeture. Mais c'était vraiment... On avait enregistré ce podcast, je pense, un mois après que j'avais... Alors, c'était même pas fermé, hein, j'ai envie de dire. J'avais liquidé la boîte parce que du coup, la boîte avait quand même des dettes. Donc, il y a eu quand même tout un passage en liquidation, etc. Donc, j'avais décidé d'arrêter et de liquider la boîte. Et donc, oui, c'était tout frais, en fait, quand j'avais enregistré ce podcast avec Siam. Et effectivement, j'avais eu envie, en janvier de cette année, d'écrire un article Medium, justement, pour dire, en fait, qu'est-ce qu'on devient après avoir liquidé une boîte? Et est-ce que, en fait, tu es toujours entrepreneur in the dark? Ou qu'est-ce que tu fais, en fait, 3 ans après? Et est-ce que, finalement, ce qu'on considère comme un échec peut être transformé en une réussite plus tard. Et donc, c'était un peu mon point quand j'ai écrit cet article Medium-là. Donc, j'ai envie de dire que, oui, je suis toujours entrepreneur. Aujourd'hui, je ne suis pas, comment dire, j'aurais jamais pensé, parce que suite à la bibliothèque, c'était « je veux remonter un truc », tu vois. C'était le premier truc, c'était « je veux remonter une boîte ». Qu'est-ce que j'ai comme idée? Je voulais une idée à tout prix, parce que, en fait, parce que aussi, t'as l'impression qu'on t'attend un peu là, tu vois. C'est un peu, t'as l'impression que t'as monté une boîte, tu la fermes. Le truc qu'il fallait et que j'ai dit dans Génération XX, très certainement, c'est je suis sûre que je vais remonter une boîte, tu vois. C'est le truc où on t'attend. Non, mais l'histoire n'est pas finie, tu vois. C'est pas genre, non, mais c'est vrai, tu vois, on se dit toujours, l'histoire n'est pas finie. Je peux pas dire. Ça y est, je vais repartir salarié dans ma petite boîte, tu vois. Non, donc tu vois, c'était je vais remonter une boîte, je veux trouver une idée, évidemment, l'idée révolutionnaire, tu vois. J'étais vraiment toujours dans ce mood-là. Pendant quand même un petit moment, j'ai toujours cherché. Et en parallèle, j'ai commencé à bosser, à faire du consulting, à travailler, enfin voilà, à faire du free, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai... une boîte qui est comme un peu une agence. Donc, on n'est plus du tout sur ce côté start-up qui va révolutionner le monde. ce que parfois, en fait, je me dis, ouais, c'est vrai, c'est dommage, tu vois, tu avais cette ambition. Mais en fait, en même temps, je me sens tellement épanouie aujourd'hui avec ce que je fais et dans la vie dans laquelle je suis, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en fait, en 3 ans, que il n'y avait pas que le travail.
Non, c'est clair. Mais pour revenir juste en arrière, la bibliothèque, tu l'as créée en 2014. C'était quoi le concept? C'était quoi l'idée, l'ambition derrière cette boîte, la bibliothèque?
Alors, la bibliothèque, c'était une boîte qui faisait de la location de vêtements par abonnement. Donc, l'idée, c'était de se dire, on va révolutionner le monde de la fashion, on va révolutionner le monde de la mode en consommant différemment, parce que consommer mieux, donc ne plus acheter de la fast fashion à tout va et... plus sustainable, tu vois, essayer de renouveler sa garde-robe tout en consommant plus responsable. Donc, c'était vraiment dans cette idée-là de se dire, et franchement, j'étais vraiment dans cette optique en me disant, on va révolutionner le monde de la mode, tu vois. On est dans cette optique-là et on veut. On a été d'ailleurs un peu les premières sur le marché sur ce modèle-là de la location. Quand tu vois qu'aujourd'hui, ça commence à peine à un peu se développer. Et encore aujourd'hui, j'ai des gens qui m'envoient des articles sur LinkedIn quand ils voient Decathlon se lance dans la location, je sais pas quoi. Tu vois? Non, mais il y a encore ce truc-là. Et 3 ans après, que j'ai fermé, il y a encore des gens qui m'envoient, oui, je veux monter un concept, lié à la location. Est-ce que on pourra en discuter, etc. J'avoue qu'au début, je répondais à beaucoup de monde. Après, j'ai écrit des articles médias à ce sujet où j'ai tout raconté. Franchement, j'ai plus rien à dire à part ça. Mais voilà, si tu veux, c'était vraiment dans cette optique de me dire, oh, j'avais l'impression d'avoir l'idée du siècle. Non, mais en tout cas, de me dire, ben voilà, non, mais j'ai trouvé le truc et j'en étais vraiment persuadée. Après, je dis pas, hein, comme j'ai dit à tout le monde, je pense que peut-être qu'un jour on y arrivera à ça. Mais c'était vraiment trop prématuré, c'était trop tôt, on n'était pas, tu vois, aujourd'hui on est toujours dans Vinted, le fait de acheter et revendre, et on n'est pas dans le fait de louer ses fringues du quotidien, tu vois. Et même pour des événements, franchement, j'en connais pas non plus des masses qui louent leurs fringues pour des événements, finalement tu vas acheter, tu revends sur Vinted, enfin voilà.
Mais du coup ça a marché à l'époque? Est-ce que ça a quand même duré 4 ans, donc ça a marché? T'as pu avoir des employés? Est-ce que t'étais toute seule? Est-ce que t'avais des, je sais pas, un laboratoire? Pas
non, une boîte, ouais, t'as un
entrepôt, des bureaux, quoi.
Ouais, ouais. Et effectivement, quand on a lancé ça, alors déjà, on a levé des fonds. Donc, on a levé des fonds auprès d'investisseurs. On avait levé 600 000 euros, ce qui permettait quand même de bien, voilà, démarrer, etc. On a eu un très très bon accueil au démarrage, où on a fait quand même la plupart des magazines, pas mal de télé, pas mal de presse, parce que concept novateur, aussi bien dans la partie éco, tu vois, genre nouvelle économie, économie solidaire, etc., que dans la partie c'est aussi nouveau pour la mode. En plus, on essayait de choisir des créateurs qui étaient plutôt pointus, un peu dans l'air du temps, etc. Donc, si tu veux, on a eu quand même justement cette phase un peu, j'ai envie de dire, je mets des guillemets, mais notoriété, tu vois, du concept, qui te porte aussi, tu vois, et qui forcément, tu te dis, ah, mais super, voilà, on est, je sais pas, sur TF1, waouh, truc de fou, tout le monde te dit, ah, mais ça marche génial. Alors, il y avait ce côté, et c'est là où j'aimerais dire attention, parce qu'il y avait ce côté, effectivement, notoriété, où on te voyait et les gens me disaient, mais c'est génial, je t'ai vu sur France 2, je t'ai vu sur TF1. Ouais, ouais, c'est bien. On avait l'avantage d'avoir levé des fonds, donc j'avais des salariés. Au final, j'ai fini, après 4 ans, j'avais 10 salariés à peu près. Juste pour vous faire une idée, on avait un entrepôt et on avait 10 salariés. Mais à côté de ça, j'étais à la gorge tout le temps, parce que il fallait trouver des clients, les garder, parce que bon, c'est pas l'idée de trouver des clients, il faut aussi que ils prennent un abonnement et que l'abonnement, il ne se désabonne pas, etc. Et en fait, tous les mois, j'étais en train de jongler entre des petits chiffres, etc., parce que finalement, j'avais la partie notoriété pour les gens grand public, entre guillemets, mais derrière, je jonglais avec des chiffres pour essayer de payer tout le monde, tous les salaires, et que on puisse continuer à se maintenir, et puis je pouvais plus racheter la collection. Donc en fait, c'est ça la vraie différence pour moi, c'est entre ce qu'on t'affiche et le fame, j'ai envie de dire, et la réalité derrière. C'est-à-dire que, et forcément, quand t'es dans ce concept-là, quand t'es à tout le monde qui te dit, oh, c'est super, je t'ai vu sur TF1, tu peux pas leur dire, non, mais en fait, c'est la galère, les gars, tu vois. Non, mais c'est chaud, tu vois, tu peux pas dire ça. Donc, de fait, quand t'es là, tu dis, ouais, non, c'est super, ça marche super bien, tu vois.
Non, mais c'est la vérité, parce que même nous, c'est toujours ça. Même nous, et même pas que nous, les créateurs de contenu, tout ça, tous ces gens que tu vois sur les réseaux, t'as l'impression qu'ils ont des entreprises à succès. À chaque fois, on essaie de dire sur le podcast, attention entre ce que vous voyez, tout ce qui brille n'est pas de l'or, ce que vous voyez, la fame que vous voyez, les nanas, elles ont des sourires comme ça. Derrière, il y en a qui sont prises à la gorge tout le temps. Et nous aussi, à la fin, nous, on pouvait plus. Toi aussi, tu te dis, attends, moi, j'ai mes parents qui sont salariés, j'ai ma sœur qui est salariée, j'ai tous mes freelances, j'ai ceci, j'ai cela. Il faut trouver des clients à chaque fois. Ils tombent pas du ciel. Donc, les gens vont dire, ouais, mais elles ont 80 000 abonnés ici. Mais les gens, c'est parce que t'as qu'à 80 000 abonnés ou 100 000 abonnés que c'est des clients. Ça serait incroyable, ça, tu vois.
Comme si tu dis, t'as 10 000 likes, mais likes, ça veut rien dire.
Les likes ne sont pas des euros.
Non.
Et ça, c'est vrai que beaucoup de gens pensent que t'as tant de communautés. C'est que ça doit rapporter gros.
Non,
je veux dire, on a une chaîne à, je sais pas, 170 000 abonnés. Sur notre plateforme, on était 1500 au plus haut.
Oui.
Donc, bon, vous voyez bien qu'il y a quand même
une différence.
Une différence. Alors, nous, c'est vrai que la différence avec toi, on n'a jamais eu le côté être à la gorge financièrement.
Non.
Ça, on l'a pas connu. Mais c'est vrai que si tu veux aller un peu plus haut, ça veut dire devoir recruter toujours plus. Pour en plus un système d'abonnement, puisque nous aussi on a toujours eu.
Et ça, le système d'abonnement, c'est un système qui est compliqué. Je sais qu'il est très à la mode, très tendance, et c'est normal parce que on vend. Enfin, souvent les formateurs, ils vendent aussi du côté abonnement parce que c'est très bien, parce que ça permet de pérenniser, que t'es pas. Enfin, tu sais, tous les mois, tu sais à peu près. Oui et non. Tous les mois, tu sais à peu près. Oui, c'est mieux en effet, mais ça reste quand même un système qui est très prenant pour un entrepreneur parce que tout le temps, il faut trouver les... parce qu'il y a des gens qui se désabonnent tous les mois.
Oui.
Il faut bien trouver de nouvelles personnes qui vont les remplacer. Et dans tous les cas, même si t'es pas prise à la gorge financièrement, t'es toujours dans un truc en disant, il faut trouver des clients. Comment trouver les clients? C'est novateur. Il faut trouver un nouvel outil pour... Franchement, archi épuisant, quoi.
Non, mais c'est sûr que le système d'abonnement, t'as les deux écoles, en fait. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est qu'à la fois, on te le vend parce que c'est bien, parce que tu peux un peu planifier ce que tu vas rentrer et tout. Mais si ton taux de churn, il est tellement élevé, donc de désabonnement, il est trop élevé par rapport à ton nombre d'abonnements, en fait, tu rentres dans un cercle vicieux où c'est pas rentable, tu vois. Et un peu, c'est un peu le problème, je pense, du système de l'abonnement où on te dit, ouais, il faut faire des modèles à la Spotify. Oui, non, mais c'est bien, tu vois, mais Spotify, c'est Spotify, quoi, tu vois. Ou Deezer, c'est Deezer. Donc, je pense que c'est là aussi où, c'est bien, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens s'abonnent et se désabonnent hyper facilement, tu vois. C'est plus à l'ancienne école où on reste abonné parce que on sait pas pourquoi, mais on fait... Non, on en a marre, au bout de 2 mois, c'est bon, c'est fini, on se casse, quoi. Donc ouais, le modèle de l'abonnement, au-delà, après, il marche très bien, je pense, dans certaines industries, tu vois, le système d'abonnement. Mais c'est vrai que c'est un travail. Et alors après, au-delà de ça, donc là, je parle du côté financier, donc qui est une première phase où j'étais à la gorge, mais au-delà de ça, après, c'est le travail engendré. C'est-à-dire que pendant 4 ans, je n'avais pas de vie. Mais quand je vous dis pas de vie, c'est-à-dire que limite mes amis, je pense que ils m'en ont voulu. Ils pensaient que j'inventais des excuses quand je leur disais non, je suis désolée, je peux pas venir boire un verre. Là, je dois bosser. Non mais tu bosses. Il est 22h30. Ouais, oui. Et oui, concrètement, je bossais, tu vois. Et en fait, c'est vrai que tu tombes un peu dans un truc où je bossais 7 jours sur 7. Tu vois, je faisais des horaires mais pas possible. À la fin, j'arrivais, mais j'étais épuisée. Tu vois, j'arrivais, j'arrivais même plus à réfléchir, tu t'as même pas de recul sur ta boîte, tu vois, t'es tellement dans le truc, et je voulais tellement, vraiment en plus, que cette boîte fonctionne, tu vois, que j'y ai mis, limite, ma santé, entre guillemets, dedans, à force de vouloir tirer, essayer de, à la fin, avant de liquider, j'étais encore en train d'essayer de chercher à lever des fonds, voire avoir des prêts de banque, etc., etc., pour essayer de remonter la boîte, donc, je pense que j'y ai tellement donné qu'à la fin, en fait, je me suis dit, mais juste, c'est plus possible, en fait. Il y a un moment où, qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu continues comme ça combien de temps? Et en fait, je pense que là où ça a été, enfin, pour moi, là où j'ai décidé finalement de dire, OK, c'est bon, c'est décidé, j'arrête, ça a été suite à une discussion que j'avais eue à l'époque avec Oussama Ammar, The Family. Il m'avait dit, en fait, non, mais là, t'es dans une spirale qui est trop négative. Et du coup, et qu'est-ce que tu veux en faire, en fait, là, aujourd'hui? Même si tu levais, est-ce que vraiment t'aurais... Et en fait, je pense que j'étais épuisée et que finalement, il avait complètement raison. Et surtout, moi, en tout cas, ça a réveillé. Je me suis dit, mais en fait, qui m'empêche d'arrêter? Qui m'empêche de dire, OK, j'ai décidé de dire stop aujourd'hui? Et en fait, j'organise le fait que je vais liquider ma boîte. En fait, c'était juste psychologique, tu vois. Ce sont des barrières psychologiques qui te disent, non, t'es obligé de continuer, quoi.
Mais est-ce que t'avais eu, avant que ce fameux Oussama Ammar, vous regarderez sur Google, qui sait, parce qu'il est assez connu dans le milieu entrepreneurial. Avant que Oussama Ammar te dise cette phrase qui, pour toi, a été un peu le déclic, est-ce que, je sais pas, des mois avant, tu étais dans le mood « je veux arrêter, mais j'ose pas ». Je veux arrêter, mais j'ose pas, parce que je sais que tu travaillais aussi avec ta sœur qui travaille avec toi.
Ouais.
Est-ce que vous disiez toutes les deux « je veux arrêter » Est-ce que c'est venu de toi uniquement? Est-ce que tes sœurs aussi avaient le même état d'esprit? Comment ça s'est passé avant que Oussama arrive dans l'histoire?
Ouais. Alors, en fait, donc, juste pour la précision, c'était essentiellement avec une de mes sœurs, Aurélie, qui était aussi avec moi tout le temps dans l'opérationnel. Alizée, elle était là, elle avait été là un peu au début, mais Alizée avait a toujours eu un job dans une grosse boîte et du coup, n'a jamais quitté, donc elle était pas du tout là vraiment. Mais avec Aurélie, effectivement, on était toutes les deux dans la bibliothèque. En fait, si tu veux, c'est un peu le problème de l'entrepreneuriat, c'est que c'était vraiment des hauts et des bas. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais et c'était j'en peux plus, je suis épuisée, je vais tout arrêter. Derrière, tu passes sur TF1 et c'est là, ouais, trop bien, on est sur TF1. Non mais attends, vas-y, ça va cartonner cette boîte. Non, mais c'est vraiment, c'était ça, tu vois. C'était vraiment, t'avais des hauts et des bas, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'était un jour, enfin, même pas un jour. Le matin, on arrête. L'après-midi, on est au bout du siècle.
Hein, c'est tellement nous. C'est rassurant d'un côté pour moi de me dire que parfois, j'ai dit, on est des girouettes. On est instable, on est incapable de garder un même état d'esprit pendant plus de 2 heures d'affilée. C'était le matin, trop bien, truc. Et l'après-midi, non, j'ai plus envie. Là, si on arrête tout. Donc, je comprends totalement.
Dis-toi que nous, en plus, c'est avec nos freelances, les pauvres, c'était. On va créer un agenda. Ouais, on va créer un agenda. Le lendemain, moi, je dis à Marisa, franchement, on arrête tout. Enfin, franchement, ça me saoule. Et on appelle les freelances. On arrête l'idée de l'agenda. Ok, très bien, on arrête. Puis 2 jours après, on se remotive. Non, mais cet agenda, il va être génial, non? Et on rappelle les freelances. Finalement, c'est vrai qu'on est chiante parce que... Mais c'est vraiment... Ça résume vraiment bien ça. C'est montagne russe. Il y a des jours où on était... tellement démotivés qu'on pleure dans les bras l'une de l'autre en mode « c'est bon, on arrête, allez, Marisa, je suis désolée de t'avoir fait venir de Paris, quitter toute ta vie et tout. » Et puis, le soir, on prend l'apéro, on vit une belle aventure quand même. Aventure.
C'est fou, hein. Allez, c'est ce qu'on... Nouveau projet.
Et puis après, ça va au-delà, comme tu dis, par exemple, pour TF1, c'est... nous aussi, mais c'est hyper, en plus, vicieux parce que c'est... Tu te rends pas compte, c'est... Tu as posté une vidéo sur YouTube, alors que, limite, quand tu la postes, t'es en mode... Je vais tout arrêter. Demain, elles ne sauront pas, mais demain, on n'existe plus. Cette vidéo-là va avoir, je ne sais pas, moi, 100 000 vues. C'est tellement dommage d'arrêter.
Ouais. Donc, ah bah c'est vraiment oui, ça, c'est quoi. C'est ça, en fait. Mais en fait, c'est ce qui est un peu... Et c'est là où je dis, t'es un peu tiré par aussi le côté fame, ce que j'appelle un peu fame, parce que finalement, c'est des gens qui vont t'encourager, mais les gens qui t'encouragent, c'est pas ceux qui payent, tu vois. Non, mais je suis désolée, mais c'est super d'encourager. Mais au final...
100% vrai, c'est vrai.
C'est très sympa, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, ben, ça te fait pas ton business, quoi. Donc, en fait... Je pense que il y a vraiment ce côté-là où bah t'es un peu t'as ce côté un peu bah oui comme tu dis sur les vues sur les réseaux sociaux ou tu vois les likes ou quoi où t'es entre la réalité du business et finalement après ce que bah les gens te font percevoir que c'est quand même super ce que tu fais parce que t'as du like t'as des vidéos t'as des trucs donc et en fait je pense que tu vois enfin en tout cas moi je parle pour moi mais je trouve que finalement, du coup, bah, j'étais pas hyper claire sur la réalité de mon business et combien je rentrais et combien je sortais et est-ce que j'étais fatiguée parce que s'épuiser à essayer de garder des abonnés, tu vois, en travaillant 7 jours sur 7, je sais pas combien d'heures par semaine, c'est pas très sain, tu vois. c'est pas super sain comme truc. Donc en fait, c'est là où c'est un peu, et je pense que c'est ce que vous disiez en disant, bah, on dit toujours ne pas regarder sur Instagram, mais c'est la même chose, tu vois, c'est exactement la même chose. Sur Instagram, on va te montrer ce qui est beau, quoi, tu vois, donc, et là, c'est pareil, t'es partagé entre, ah ouais, ça, là, c'est super, parce qu'en fait, tout le monde m'encourage et tout le monde me dit, c'est génial, mais à côté de ça, il y a une réalité, tu vois, et la réalité, ça peut être le montant de travail que tu fais par jour, le fait que bah, tu t'investis tellement que t'as plus de vie à côté, le fait que tu ne génères pas assez de chiffre d'affaires pour pouvoir tout payer, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut en fait être assez clair et c'est difficile hein, d'être assez clair sur son business et sur qu'est-ce qu'on a parce que je pense que alors encore une fois, je veux pas faire de généralité, mais je pense que pour moi et de ce que j'ai noté en tout cas de parce que j'ai eu beaucoup de filles entrepreneurs après la bibliothèque m'ont appelé parce que pareil. Elles avaient des problématiques, elles hésitaient à arrêter, pas arrêter, qu'est-ce qu'elles devaient faire, etc. Je pense que on a quelque chose à prouver, tu vois. En fait, c'est un peu ça. On a quelque chose à prouver et c'est ça qui, ben, fait que, ben, on ne veut pas arrêter parce qu'on veut prouver à qui, je ne sais pas, mais se prouver qu'on est capable. On est capable de le faire. On a lancé un truc, tu vois, et arrêter en plein milieu, ben, c'est un échec. Enfin, faut pas se mentir, hein, entre guillemets. C'est un échec. Moi, j'ai jamais voulu dire, parce que quand les gens te disent « non, mais c'est pas vraiment un échec », sur le coup, oui, c'est un échec. Aujourd'hui, je vais te dire « non, c'est pas du tout un échec », parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à la bibliothèque, enfin, grâce à tout ce que j'ai fait, à la bibliothèque derrière, que je peux faire aujourd'hui ce que je fais. Mais si tu veux, sur le coup, bah, je vais pas me dire « super, j'ai liquidé ma boîte, c'est un super succès ». Non, faut être réaliste, quoi. Non, mais...
Est-ce que t'as eu honte ?
Non, alors j'ai jamais eu honte. Alors peut-être parce que c'est vrai que dans ma vie, j'ai pas beaucoup honte, mais je me dis quand je dessine un truc, mais c'est juste que parfois, bah, quand tu as des gens qui te disent non, mais c'est pas grave parce qu'avec tout ce que tu as appris, oui, non, mais d'accord, c'est pas vraiment un échec. Non, mais ok, mais mettons quand même les mots, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, il faut être aussi. Moi, ça, j'aime bien aussi faire face à ma réalité et me dire bon, bah non, en fait, là, ok, bah pour moi, c'est, en tout cas, pour moi, c'est un échec. J'ai pas eu honte parce que. Je pense que quand j'avais pris, à partir du moment où j'avais pris la décision,
Donc, et comment t'annonces après... ça à ton équipe? Comment t'annonces ça à ta sœur? Est-ce que ta sœur, elle était avec toi lors du moment où tu te dis j'en ai marre? Parce que Marise et moi, on est
toujours sur la même longueur d'onde, donc c'est facile.
C'est vrai que ça aurait été compliqué pour moi, par exemple, de dire j'en peux plus parce que c'est moi qui ai un peu initié le truc. Donc là, c'est Isadora qui parle. Mais Marisa, quand je lui ai dit, c'était
évidemment.
Moi, on est pareil. Mais pour les autres personnes, par exemple notre grande sœur, c'est pas été la même. C'était un peu plus compliqué de l'annoncer. Il a fallu quand même prendre un moment pour annoncer. Donc, comment toi tu l'annonces à une équipe de 10 personnes, dont ta sœur?
Alors, ma sœur, évidemment, je lui ai annoncé à part et en fait, je lui ai pas annoncé comme ça. J'ai décidé que je lui ai dit, écoute. Suite à cette discussion que je viens d'avoir avec Oussama, moi je pense qu'il faut qu'on arrête parce que de toute façon, et en fait, elle est pas du tout allée contre sens, elle a dit non mais complètement, je suis, enfin, parce que elle aussi, elle se rendait compte, évidemment que pareil, elle était quand il se passait, il y avait des bonnes nouvelles, elle était super contente, mais à côté de ça, elle était aussi fatiguée, elle était aussi un peu dans le même truc, au bout de 4 ans, d'être crevée, Du coup, bah finalement, en fait, ça a été presque, j'ai envie de te dire, un soulagement, je pense, pour elle comme pour moi, quand on a dit, bah en fait, ok, maintenant, c'est le moment, on arrête, on a décidé, maintenant, on met juste en place le plan d'action pour arrêter correctement, pour faire les choses comme il faut, etc. Donc ça c'est vrai qu'avec ma sœur, finalement, on a été alignés, tu vois, c'était pas du tout, elle pensait vraiment, donc pour ça, il n'y avait pas eu de souci. Après, ce qui a été plus dur, c'est là où l'annoncer à l'équipe, ça a été plus difficile. Parce que, évidemment, enfin, tu vois, je m'attendais pas du tout et je me souviens très bien que, ben, il y avait, une Ambre qui était une de nos salariés qui était là, depuis quasiment les débuts. Enfin, ça faisait je sais plus combien de temps qu'elle était là, mais, et quand on l'a annoncé, enfin, tu vois, il y a des gens qui sont mis à pleurer. Et tu vois, je m'attendais pas à ça. Parce que moi, du coup, comme j'avais pris ma décision, si tu veux, j'étais là en mode, ok, c'est quoi le next step, hop, tac, 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 on enchaîne le plan, quoi. Enfin, tu vois, pour aller jusqu'à l'équitation. Et en fait, bah là, tu te rends compte qu'il y a de l'humain aussi en jeu. Et c'est difficile, bah forcément, parce que ces gens-là aussi, ils croyaient. Tu vois ce que je veux dire? C'était des gens qui étaient avec nous, qui croyaient, qui croyaient dans le concept. Et oui, c'est sûr que ça fait de la peine, même pour moi, de me dire, bah oui, c'est mon équipe, et bah j'aurai plus cette équipe, et ça va, voilà. Après, je pense que bon bah l'avantage aussi, c'est que j'arrivais pas qu'avec des mauvaises nouvelles quand je l'ai annoncé. Évidemment, je savais un peu juridiquement derrière ce qui se passait et comment ça allait se passer pour eux, pour les salariés. C'était plutôt c'était plutôt positif parce qu'en France, ils sont bien protégés. Enfin voilà, tu payes des taxes qui sont assez élevées hein, pour des salariés, mais derrière, au moins, ils sont bien protégés, ils ont droit à un an plein de salaire. Enfin voilà, bon, il y avait quand même pas que des mauvaises nouvelles, genre demain t'es à la rue, quoi. C'était pas le truc, mais ils étaient presque plus tristes, pas pour ça, mais plus, bah oui, pour le concept, pour l'équipe qu'on avait créée, tu vois, qui était là. Et ça, c'est vrai que ça a été un peu plus difficile, mais après, passé ça, très honnêtement, bah après, c'était ok, comment on procède à une liquidation. Ce qui a été dur, c'est de pendant, parce qu'en fait, on a préparé notre liquidation, donc en fait, pendant plusieurs mois, les clients n'étaient pas au courant. Il y avait des clients avec qui j'étais très proche, tu vois, parce que c'était les premiers clients, les premiers abonnés que je connaissais limite, voilà, que je voyais toutes les semaines et tout ça. Et c'est vrai que là, ça a été un peu dur parce que de ne rien dire, sachant que tu prépares une liquidation et qu'en fait, dans 2 mois, c'est fini, bah, tu dois toujours faire comme si tout se passait bien parce que juridiquement parlant, tu ne peux pas te permettre de dire on part en liquidation, quoi. Donc c'est vrai que ça a été un peu difficile de prétendre que on continuait malgré le fait que bah, derrière voilà. Et je pense que j'ai été vraiment soulagée le jour où bah ça y est, c'était fini, on mettait un peu la clé sous la porte et qu'on voilà, on est parti. Là c'est vrai que ça a été, mais c'est vrai que les 2 mois entre ne pas l'annoncer, pareil, quand on l'a annoncé à notre communauté, à nos abonnés et tout ça, ça a été beaucoup de bienveillance, franchement, énormément de bienveillance, de messages bienveillants et de gens qui nous disaient « mais je suis sûre que vous allez… » Tu vois, et encore du coup, ça te met dans ce truc. « Je suis sûre que tu vas remonter un truc génial. » Déjà, donc t'es dans le truc « oh là là, il faut que je remonte un truc génial. » Le truc qui te fait peur. Tu peux déjà plus, tu dois remonter un truc.
Mais c'est drôle parce que nous, c'est exactement ça. Depuis qu'on a annoncé que la plateforme était finie, à chaque fois, mais je comprends, ça te met une pression alors que t'as rien demandé, tu sais, mais on a toujours des messages tous les jours disant « j'ai trop hâte de voir votre prochain projet, je vous suivrai, je sais que ça va être déjà génial, j'ai confiance en vous les filles, je sais que le prochain projet ça va être ouf, mais il n'y a pas de prochain projet en fait, il n'y a pas de prochain projet, ouais. On ne sait pas ». Et du coup, ça, c'est des phrases qui sont hyper bienveillantes, qui sont hyper, tu sais, genre motivantes, on croit en vous, mais qui nous mettent une pression sur les épaules en mode « on est faite que… » pour créer des choses géniales, en fait. T'es une machine à choses géniales.
Si t'as juste envie, je sais pas moi, de retourner dans le salariat et de secrétaire, je sais pas, oui. Tu pourrais. Ouais. Et bah, limite, génial, quoi, tu vas décevoir parce que c'est pas génial. Enfin, c'est vrai que c'est une pression qu'on nous met et vraiment sans aucune malveillance. Au contraire, c'est justement avec le plus de bienveillance possible et parce qu'on croit en nous. Et comme disais tout à l'heure, c'est ceux qui te motivent le plus qui n'achètent pas. Et c'est vraiment, et nous on l'a vraiment vu avec Snackies à l'époque.
Oui.
Quand tu fais une vidéo dédiée en disant que pourquoi tu fermes, et que tous les messages ça va être c'est trop triste, j'allais justement commander. Attends, ça fait 5 ans de Snackies. 5 ans qu'on vend des snacks.
5 ans, il y a une box par mois en 5 ans.
Et ça c'est vrai, c'est une réalité aussi. C'est pas les clients. De toute façon, généralement les clients sont ceux très souvent qui parlent le moins. Oui. Ceux qui parlent le plus, ça va être ceux qui trouvent ça génial, le concept, qui vont trouver génial ta personnalité, ton engagement, etc., mais qui en soi ne sont pas clients de ton produit. Donc c'est vrai que ça met une pression et je le comprends.
Et c'est ça qui est aussi intéressant quand tu disais tout à l'heure d'être honnête sur son entreprise. C'est pas toujours évident parce que quand tu disais t'as la tête dans le guidon, donc nous on passe de projet en projet sans jamais prendre du recul et s'élever par rapport au projet qu'on fait. Tu fonces. Et au bout d'un moment, il faut juste regarder l'entreprise et voir ce qui rentre, ce qui sort. Au bout d'un moment, faut faire les comptes, quoi. Tu vois, et tu dis bah oui, non. Oui, ça fonctionne. Oui, je suis hyper épanouie. Oui, j'ai envie de continuer. Tu fonces. Est-ce que vraiment il y a plus de ça rentre pas, je me sens lessivée, j'ai plus l'envie, j'ai plus l'engouement.
Mais c'est vrai que j'ai bien aimé quand t'as dit c'est difficile d'être clair, oui, avec son entreprise. Oui. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu, je pense, en 2021.
Oui.
C'est on fait, parce qu'il y avait un agenda à sortir, parce qu'il y avait un truc, etc. Oui. Et quand à la fin de l'année, en fin décembre, on s'est regardé, puis on s'est dit, mais tout marche très bien. Mais est-ce que ça nous ramène encore de la joie? Mais on s'est jamais posé la question. Pour nous, c'est comme, si tu veux, on nous acclame quelque part.
Mais n'oublions pas que le système d'abonnement, on dit quand même, si on veut maintenir, à chaque fois, c'est comme ça, les discussions quand même à la maison. C'est, si on doit maintenir chacun nos salaires, voici combien d'abonnés il faut. Là, aïe, il y a eu pas mal de désabonnements ce mois-ci. Il faut quand même rien, tu vois. Donc c'était, oui, ça fonctionne, mais quand même toujours cette mécanique de, on a tous ces gens à payer plus nous. Attends, il faut quand même faire ci, ça. Ce qui est valable dans toutes les entreprises, hein. Donc ça, c'est clair, c'est clair. Mais peut-être que aussi, c'est très féminin aussi dans l'entrepreneuriat féminin que peut-être que beaucoup de femmes comme nous n'ont pas envie de faire que ça dans notre vie. Notre travail, moi, ma vocation n'est pas d'être que dans une entrepreneur. Je sais pas si on est moins armé dans la société pour parfois je me dis, c'est pas qu'on n'a pas les épaules, c'est qu'on a les épaules, mais qu'en plus de tout ce qu'on nous propose de faire, nous demande de faire dans le quotidien, franchement c'est épuisant tout ça, quoi.
C'est vrai que c'est très souvent les femmes qu'on entend dire
plus
ça,
parce qu'en fait nous, en fait, c'est souvent, je remarque, c'est que les femmes, quand elles sont entrepreneurs, j'avais écouté un épisode de podcast, la nana, elle était très honnête avec elle-même, elle dit, on fait des choix, il y a des choses que tu peux pas faire. La meuf, elle avait 3 enfants, elle dit, bah moi je suis pas là le soir pour les coucher. C'est difficile de pouvoir tout être partout. Je suis la maman qui fait à manger bio, maison à ses enfants, en même temps je gère une entreprise, il y a 10 salariés, en même temps je fais attention à la planète et à ce que je consomme. Enfin, au bout d'un moment, on peut pas...
Donc il y a un potager...
Que ouais. Peut-être que certains hommes, je dis pas tout, mais souvent les hommes quand même, quand ils sont entrepreneurs, et que, peut-être qu'il y a la femme qui est plus en charge de faire X, Y, Z. D'ailleurs, on l'a vu, on est parti ce week-end chez une copine, enfin qui a fait son anniversaire. C'est tous des chirurgiens, des médecins, etc. Bah les femmes, la plupart, leurs hommes étaient chirurgiens, ils brillaient dans tous les sens. Eux, ils avaient, elles aussi, c'est des médecins, toutes des médecins, mais qui ont décidé, bah comme elles voulaient des enfants, bah de mettre de côté leur carrière pour que l'homme brille et que elle, en fait, on peut pas être de tous les combats.
Non.
Donc il y a des choix à faire. Et c'est très féminin, je trouve, dans ce côté entrepreneurial, de, au bout d'un moment, de dire, oh, bah, on est épuisé. Mmh. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses qu'on nous demande, et que je trouve que nous, les femmes, on nous regarde beaucoup quand on est entrepreneur. On regarde bien si elle chute, si elle fonctionne bien. Qu'un homme, je trouve qu'on le regarde moins. Je trouve qu'un homme, il monte sa boîte, c'est bien, quoi. On applaudit des deux mains. Nous, on va regarder.
J'ai envie de dire, je sais pas si c'est qu'on le regarde moins, ou c'est aussi la manière dont il perçoit sa boîte qui est différente. Parce que tu vois, j'ai quand même l'impression que nous, on a ce côté, tu vois, la boîte, c'est un peu ton bébé. Alors, vous avez des enfants, donc certainement pas, mais...
Oui, si, si, c'est vrai, c'est vrai, oui.
Moi, j'ai pas d'enfants encore, donc je peux pas dire...
Mais... Si, moi, je trouve que c'est mon bébé.
Voilà, tu vois, t'as le côté... mais tout le monde te le dit, tu vas dire, ah, c'est ton bébé, tu vois, genre, tout le monde te le dit, c'est ton bébé, c'est ta boîte, c'est ton machin. Je pense pas qu'on dise ça à un mec, tu vois. Je suis pas sûre qu'on lui dise, ah, c'est ton bébé, tu vois, genre, je sais pas, je trouve ça bizarre. Et en plus, du coup, ils ont cette comment dire, cette vision de leur boîte, ils peuvent ouvrir une boîte, fermer une boîte, et tout le monde s'en fout, en fait. Même eux, hein, tu vois, concrètement, j'ai eu cette impression, en tout cas, en ayant parlé avec des différents entrepreneurs depuis 3 ans maintenant, en ayant parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, que bah il y a moins ce côté où t'es là, non il faut absolument que ça marche, non ils en ouvrent une, ça marche pas au bout de 3 mois, ils ont fermé, ils en ressortent une autre, enfin peu importe quoi, tu vois, il y a moins ce côté un peu attachement que tu vas avoir avec, donc je sais pas si c'est, tu vois, qu'on les regarde moins, ou si aussi eux qui ont une approche différente qui fait qu'on les regarde.
C'est vrai, c'est possible. Il y a moins cette sensibilité à l'entreprise. Et moi, je vois avec mon conjoint qui vient de créer sa boîte, on n'a pas du tout les mêmes dynamiques. Tu vois, lui, c'est vraiment très factuel. L'entreprise génère tant, l'entreprise est sympa. Que nous, on est là, on a mis de l'émotionnel dedans, en fait. On met de l'émotionnel dans notre entreprise. Et du coup, bah, l'émotionnel, ça draine. À un moment donné, c'est sûr que c'est épuisant. Et c'est vrai.
Et du coup, quand tu as ce jour de la liquidation, c'est bon. La bibliothèque, c'est terminé. Tu rentres chez toi. C'est quoi la soirée, le lendemain, ça fait 3 ans maintenant, mais est-ce que tu te souviens plus ou moins de ce lendemain ou de cette soirée, de se dire, je fais quoi?
Ouais, alors, je me souviens très bien parce que, en fait, justement, j'ai décidé de liquider, le premier truc que je me suis dit, c'est, je veux partir en voyage toute seule. Donc c'était le premier truc post, voilà, la liquidation était finie, etc. J'organise mon voyage. Et donc là, je suis partie au Mexique solo. Et ma sœur est partie solo au Népal. Donc on a fait chacune un voyage solo à 2 endroits différents.
Et ce qui est vachement intéressant, parce que quand tu liquides, enfin moi dans ma tête, c'est tu liquides, comme nous par exemple, tu dis on ferme notre entreprise.
Tout le monde a question.
D'un coup, c'est mais il n'y a plus d'argent, on est pauvres, on n'a plus de thunes. Et toi, tu pars au Mexique.
Alors justement, je n'avais plus une thune, hein, mais vraiment, quand je dis que j'étais à la dèche de dèche, c'est-à-dire que je n'ai pas liquidé une boîte, etc., en étant mis plein les poches, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, j'avais plus d'argent. Le seul peu d'argent qui me restait, je me suis dit, je le mets dans un voyage, un truc pour moi, à faire pour moi, toute seule. Et je savais, alors, j'avais eu un peu une discussion pareil à The Family, où je savais que, donc, c'était le mois d'octobre, il me semble, et que, du coup, en janvier, on m'avait dit, bah, attends, on a des missions de freelance, entrepreneur en résidence chez The Family, tu vas pouvoir avoir un truc. Donc, je savais que, bon, j'allais avoir des rentrées d'argent, que j'allais pouvoir rebosser en free. Et du coup, je me suis dit, OK, j'ai combien sur mon compte? Je check. Combien coûte le billet pour aller au Mexique? Je check. Ok, il y a des bus, donc je peux me déplacer en bus, donc je peux faire le tour comme ça et machin. Et franchement, en fait, je m'en étais sortie pour vraiment pas trop cher et pour faire justement un truc pour moi, pour me dire, ok, après 4 ans à avoir, n'ayant pas pris de vacances, pas pris, tu vois, de jours off, de trucs et tout, c'est vraiment ce qu'il fallait, c'était vraiment me dire, ok, je coupe et je pars en mode solo. Donc c'est vrai que finalement, c'était pas... Et après, bon, bah, les voyages, bon, ça, depuis j'en ai fait pas mal, mais tu peux très bien voyager pour peu, selon si tu vas dans des hostels. Enfin, voilà, ça dépend comment tu voyages. Hein. C'est sûr que je ne suis pas partie dans le 4 étoiles luxe, tout ça. Mais non, mais c'était vraiment, en fait, le fait de me dire, voilà, je veux marquer un peu la fin, faire un truc pour moi, pour me régénérer personnellement de tout ce qui s'est passé pendant 4 ans. Et tu vois, partir seule, t'as aussi le temps de réfléchir. Tu vois, ça te fait repenser, parce que t'es tellement dans le faire pendant 4 ans, que finalement t'as même pas pris du recul sur tout ce qui s'est passé. Donc là, c'était vraiment me dire, ok, bah, je me prends un moment pour moi. Donc ça a été vraiment le premier truc que j'ai fait.
Et t'as eu, et pendant ce voyage, t'as eu des épiphanies, genre t'as eu des moments où tu t'es dit, enfin, ça t'a redonné un sens à une autre dimension à la vie, parce que forcément, quand on est entrepreneur, souvent, ta vie, c'est que de l'entrepreneuriat. Ta vie est devenue ton métier. En fait, ta valeur, c'est ton métier. Ta vie, c'est ton métier. Tu parles que de ton métier. Les gens ne voient que toi. Et donc, est-ce que ça t'a donné un truc de dire, en fait, je suis une être humaine et je ne suis pas que Anaïs, entrepreneur à succès.
J'ai envie de dire, peut-être pas sur ce voyage. C'était trop court. Enfin, si tu veux faire un truc de 15 jours, c'était un peu trop court. Sur le coup, j'étais plutôt en mode, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Mais tu vois, vraiment, j'étais plutôt en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc là, et j'étais dans cette période de, il faut une idée. Remonte un truc. Donc, même quand j'étais là-bas, si tu veux, j'étais en mode, attends, j'ai peut-être trouvé des idées au Mexique. Non, je sais pas, tu vois. On sait jamais, il y a peut-être des idées à trouver, à piquer, à ramener en France. Enfin, tu viens de sortir de, tu viens de sortir de 4 ans. T'es épuisée, ma fille. Qu'est-ce que tu veux aller chercher des idées au Mexique, quoi?
Mais moi, j'adore parce que vraiment, en fait, c'est limite, on ne se connaît pas en vrai, à part, tu vois, là, comme ça. Et je me dis, mais c'est ouf qu'on soit des personnes complètement différentes, où on ne se connaît pas dans la vie du quotidien. Et pourtant, ce que tu dis, c'est nous. La seule différence, c'est que nous, on l'a fait en amont. C'est-à-dire que nous, ce n'est pas après la fermeture qu'on s'est dit... partons en voyage, etc. Nous, c'est avant.
Oui, avant la fermeture, on s'est dit, viens, nous, on est comme toi, on va chercher.
On passe du temps à chercher une idée révolutionnaire, peut-être aux États-Unis, qu'on pourra importer.
Évidemment,
ici,
le but, c'est ça. Après, on est parti en Irlande, on a regardé, on est parti, on a dit, on va monter peut-être un café, on va aller voir qu'est-ce que sont les cafés le plus truc de tendance, etc. Et au bout d'un moment, après.
On a ri en Irlande.
En souvenant d'avoir parlé avec toi, qui avait dit, les filles, pensez à rien. Pensez pas à qu'est-ce que vous pensez, profitez juste du moment. Et c'est vrai que nous, on a rigolé en disant, mais en fait, tu vois, on est reparti dans ce truc de, on n'est que des entrepreneurs, en fait. On peut pas juste chiller et être en Irlande comme ça, tu vois. Donc
c'est vrai que maintenant c'est une private joke. Ça veut dire que maintenant, quand je vois un truc, je sais pas, un beau pain, j'envoie un message à Marisa pour lui dire dans notre futur coffee shop, parce qu'en fait, et en plus, on est épuisé, comme tu dis, hein. Tu es épuisé. Ouais. 7 ans où ta vie, c'est limite de tout donner à ton entreprise. Tu es épuisé, mais tu vas quand même, en plus de ton épuisement, chercher.
Mais est-ce que c'est aussi la peur? Cette peur de l'après. Parce que toi, tu as eu une entreprise qui a généré tant, tu t'es versé un salaire, etc. Et puis du jour au lendemain, tu te dis, j'arrête mon entreprise. Ouais, mais dans tous les cas, on doit tous avoir de l'argent pour vivre. On n'a pas le choix. Enfin, si on pouvait pas, si on n'avait pas besoin de ça, moi personnellement, je suis pas sûre que je remonterais une boîte. Hein. Mais quand on a tous besoin, et que toi, tu sais que quand t'as fait les comptes avec toi-même, tu te dis, moi, je me vois pas forcément redevenir salarié parce que je pense que je suis vraiment une entrepreneur dans l'âme. Je pense que au bout d'un moment, t'as pas le choix de réfléchir à la suite. Donc, tu te remets dans un truc de je vais récréer une entreprise. Et forcément, quand t'as monté une boîte comme toi qui était censée être révolutionnaire, il faut que tu montes la prochaine boîte. Elle doit être, ça doit être un carton, ça doit être une start-up innovante.
Voilà. C'est ça. Mais je pense que, en fait, le problème aussi, c'est que, encore une fois, je pense qu'on se met dans ce mode-là, tu vois, parce que tu peux très bien te dire, je fais du freelance en attendant et je verrai, mais ça vend pas du rêve, en fait. C'est ça qui est horrible à dire, mais c'est ça aussi, t'as envie un peu d'avoir un truc qui te vend du rêve à toi-même, hein, même pas aux autres, mais à toi-même, et te dire, tu vois, le coffee shop stylé ou je sais pas quoi, tu vois, mais en gros, te dire, en fait, quelle est la prochaine idée avec laquelle je vais arriver? Et en plus de ça, je pense que on est épuisé. Moi, je me souviens très bien. J'étais épuisée. Et après, chaque idée, je la démontais moi-même parce que je me disais, non, mais je suis fatiguée, en fait. Enfin, tu vois, non, mais t'es crevée, quoi. T'as même pas envie de commencer à te lancer dans ça pourrait rapporter combien? Parce que ça t'épuise, tu vois. C'est juste pas possible. Et en même temps, je pense que oui, t'as la peur. Comme tu dis, c'est vrai, c'est la peur de se dire, mais qu'est-ce que je vais devenir? Parce que, pour tous les gens autour, pour tous mes amis, j'étais l'entrepreneur de la bibliothèque, tu vois. Et franchement, j'ai pas fait, depuis que j'avais monté la bibliothèque, j'avais pas fait un seul dîner, un seul apéro sans qu'on me présente. Anaïs qui a monté la bibliothèque. Non, mais c'est ton étiquette, en fait, tu vois. Genre, on peut pas dire juste Anaïs, ma pote, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. C'était Anaïs qui a monté. Enfin, tu vois, et en fait, du coup, presque toi, tu ne sais plus qui tu es. Tu te retrouves à, je suis qui, en fait? C'est qui, Anaïs? Ok, je suis plus Anaïs de la bibliothèque, donc je suis juste année tout court. Et en fait, tu ne sais même plus où te placer.
Tu sais même plus ce que tu aimes. Tu sais même plus quelles sont tes passions, parce que tu n'en as pas eu pendant toutes ces années.
On n'a pas eu.
Tu sais même plus ce que tu aimes limite manger, parce que tu fais ça au plus vite.
Limite, moi, tu sais même plus lire, parce que moi qui étais une folle de lecture, j'ai même... Lire quoi? Un livre? Ah, c'est drôle, c'est quoi ce machin? Je ne sais même plus.
Et du coup, c'est vrai que après, c'est compliqué. Et c'est là que arrive... Parfois, je me dis, est-ce que je suis dans la crise de la quarantaine qui arrive dans 5 ans? Mais c'est te dire... Tu sais, je me lève parfois le matin, depuis encore plus là, depuis que c'est fermé depuis une semaine. Oui. C'est de te dire, mais qu'est-ce que j'aime vraiment? Tu vois, je fais mon potager, mais est-ce que j'aime moi vraiment le potager? Ou est-ce que on m'a donné cette envie? Est-ce que j'aime vraiment faire ça? Tu sais même plus. Du coup, c'est, en effet, nous aussi, on a démonté toutes nos idées, toutes. Dès qu'on avait une idée, on s'appelait. Oh putain, combien on a eu d'idées, Marisa?
On a eu trop d'idées.
Trop d'idées. On va faire ça, c'est bon, c'est bon. Après la fermeture,
arrête tout,
on fait ça. Et puis on se démonte nous-mêmes, on se dit, mais attends, mais ça me fatigue déjà, rien que d'y penser, ça me fatigue.
Ouais. Tu vois tous les obstacles et tu sais que en fait c'était une idée qui était juste là pour te réconforter que il y a une possibilité d'un après glorieux et abondant, tu sais. Mais qu'en fait ça te... D'ailleurs, t'étais juste épuisé, donc de toute manière de base tu peux même pas réfléchir. Offrons-nous déjà du temps pour ne serait-ce que dormir, tu vois, c'est déjà...
Mais c'est vrai que c'est ça, et je pense que c'est, encore une fois, c'est parce que on veut montrer que on n'a pas tout abandonné, tout lâché, on est quand même là, et on a potentiellement encore une idée, on va remonter quelque chose, et on va faire ci, on va faire là, et en fait, juste parfois, il faut redescendre et prendre du temps pour soi, et ça, c'est vrai que c'est important, et jusqu'à, il n'y a pas si longtemps, je ne comprenais pas prendre du temps pour soi. Ouais, mais en fait, je fais quoi, tu vois, parce que, t'es assise, non, je pensais à qu'est-ce que je pouvais remonter, ou qu'est-ce que je pouvais ci, ou qu'est-ce que je pouvais là, enfin, tu vois. Et c'est vrai, prendre du temps pour moi, non, pourquoi j'arrive pas à lire, par exemple, tu donnes cet exemple, moi aussi, j'aimais beaucoup lire, etc. Enfin, j'aime beaucoup lire, hein, j'ai envie de dire même, mais pendant très longtemps, je n'ai pas lu, parce que je n'arrivais même pas à me concentrer sur un livre, parce qu'en fait, il fallait que dans ma tête, ça gambergeait, tu vois. Donc, je relisais la page 4 fois. Après 4 fois, avoir lu la même page, je dis bon, c'est bon, je vais arrêter parce que là, ça va mal faire. Mais parce que, du coup, j'étais sur, ah ouais, mais si jamais il y a ce truc, ça peut être pas mal quand même, hein, tu vois. Et en fait, tu te poses pas, en fait. Tu ne te poses pas. Tu n'es pas dans le moment présent. Voilà. Tu es toujours dans la projection de qu'est-ce que tu vas faire après, qu'est-ce que tu vas faire ci, qu'est-ce que tu vas faire là. Et je pense que, au final, ça, c'est pareil. Et pareil pour avoir parlé avec d'autres personnes qui, dans la même situation, avaient arrêté leur boîte et tout. Ben, en fait, plus personne se dit au bout d'un... Enfin, tout le monde est fatigué. Donc, en fait, tu peux pas remonter tout de suite. Ou alors, vraiment, bon, OK, tu peux aider, ça marche et voilà. Mais sinon, en général, t'es quand même fatigué. Moi, en tout cas, j'étais extrêmement fatiguée. Et je pense que cette période, finalement, où t'es là à trouver 10 000 idées à la seconde, ça mène à rien parce que... Bah finalement, t'as pas de bonne idée, tu vois. La bonne idée, elle va pas te sortir au milieu de 150 idées que t'as dans la journée, quoi. Et après, maintenant, j'ai envie de te dire, je vois aussi l'entrepreneuriat de façon différente. Parce que est-ce que l'entrepreneuriat, c'est j'ai une idée, je monte un truc. Tu vois, moi, ce que je fais aujourd'hui, ça a été par étapes, petit à petit. C'est arrivé un peu comme ça que je fasse des sites Shopify et que je monte une agence en gros qui fait des sites internet, enfin tu vois, de e-commerce, mais et être dans le digital, mais c'est pas arrivé, ça m'est pas tombé du ciel, tac, j'ai eu une idée et
ouais, c'est pas voilà. C'est pas tu t'étais dans ton canapé et t'as dit tu sais à ton mec c'est bon, demain on monte une agence. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Quand tu es revenu de ton voyage, que tu n'avais pas un sou, puisque là pour le coup tu as utilisé tous tes sous pour acheter ton billet d'avion. Tu rentres, tu n'as plus grand-chose. Mais comme disait Marisa, on a besoin d'argent pour vivre, tous.
On a tout le monde dans l'univers. Si on a bien un point en commun, c'est que l'argent, c'est le nerf de la guerre.
C'est oui. Ça. Donc du coup, quand tu es rentré, tu rentres de ton voyage, tu te dis, il faut quand même que je paie mon loyer. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là?
Donc à ce moment-là, je savais que j'avais un poste free qui m'attendait, entrepreneur en résidence au Startup Studio de Family. Donc je commence à faire ça. Il se trouve que... franchement, l'ambiance était super sympa et tout. J'ai rencontré plein de gens géniaux. Je suis encore pote aujourd'hui, mais au final, c'était pas du tout ce qui me correspondait parce que tu travaillais des gros groupes après avoir été entrepreneur à ton compte. Bon, être entrepreneur pour des gros groupes, moyen. Donc, j'ai fait ça quelques mois. Et ensuite, pareil, l'avantage, c'était que j'étais dans un réseau. Donc, c'est là où je dis que ça a été aussi un plus, parce que être à The Family, être dans ce réseau à l'époque, start-up, où tu avais plein de gens, etc., ça m'a permis, en fait, de rebondir derrière. J'ai eu la chance, on m'a proposé aussi Coup d'État à l'époque. Valentin était CEO de Coup d'État, il m'a proposé de venir gérer la communauté Coup d'État. Coup d'État, ça aide les, c'est en fait une plateforme qui aide les entrepreneurs à entreprendre. Donc, ils donnent des conseils aux entrepreneurs. Donc, je gérais la communauté. Donc, j'ai parlé à énormément d'entrepreneurs, les aider dans leur boîte, etc., etc. J'ai fait ça pendant un an. Et bon, après, au bout d'un an, je pense que j'avais fait le tour. J'ai décidé d'arrêter. Et il se trouve que j'ai commencé en parallèle de ça déjà à avoir un contact du coup qui m'a dit j'ai potentiellement un client pour un site Shopify. Shopify, c'est donc une plateforme d'e-commerce. J'avais commencé à monter déjà des sites Shopify à l'époque où j'avais la bibliothèque, parce que notre braderie de la bibliothèque était sur Shopify, donc je connaissais Shopify. En étant entrepreneur en résidence, pareil, tu fais des tests et tu fais des tests sur Shopify. Donc bon, je connaissais un petit peu, donc j'ai commencé un peu comme ça aussi. De fil en aiguille, en fait, il n'y a rien qui a été linéaire. Et de fil en aiguille, donc, je suis arrivée à, 1, puis 2, puis 3. Est-ce que tu veux pas faire de la stratégie digitale pour cette boîte-là? Donc, en plus en mode consulting. Et en fait, ça a été 1, 2, 3, 4. Il se trouve que du coup, au bout d'un moment, tu te dis, il y a peut-être un truc à faire, parce que les clients arrivent et on t'appelle, on te dit, ouais, j'ai besoin d'un site, machin. Est-ce que tu pourrais faire la strat digitale pour telle personne? Et en fait, finalement, ça a été un peu comme ça que je me suis retrouvée à me dire, ok, bon, là, j'arrive plus à gérer, comment je fais? et du jour au lendemain, donc j'ai commencé, j'étais en micro-entrepreneur, le statut, micro-entrepreneur en France, et je me suis dit, ok, bon, il y a peut-être un truc à faire sur la partie digitale, sur la partie, et en plus, je travaille régulièrement avec les mêmes personnes, c'est-à-dire que du coup, qui était d'ailleurs à Bali, parce que j'ai été à Bali, j'ai habité à Bali aussi pendant tout ce temps-là, on travaillait ensemble sur pas mal de projets, etc. Entre-temps, alors mon mari est développeur, donc lui il était pareil dans une boîte, dans sa boîte en remote à Berlin. Et entre-temps, je commençais à lui dire, est-ce que tu peux me faire des petits trucs sur Shopify, est-ce que tu vas là? Et en fait, de fil en aiguille, on est arrivé au bout d'un moment à dire, ok, il faut que je monte une structure. En fait, ça n'a même pas été du jour au lendemain, je monte une agence. Ça a été juste à un moment, je ne pouvais plus facturer parce qu'en micro-entrepreneur, je déplaçais tous les plafonds. Donc, je facturais tout sur le compte au départ de mon mari aussi. Mais au bout d'un moment, on a dépassé tous les plafonds de tous les côtés. À un moment, tu te dis, en France, tu n'as pas 10 000 choix, il faut monter une boîte. C'est quand tu dépasses les plafonds de micro-entreprise, tu montes une boîte. Donc, on a dit, ok, on va monter une structure du coup. Et c'est comme ça que du coup, la structure, ok, on a des clients. Mais tu vois, Et aujourd'hui, en fait, c'est comme ça que j'ai une boîte, quoi. C'est juste, j'ai dépassé les plafonds, donc j'ai pas eu le choix que de monter une boîte. Et c'était même plus mon idée de me dire, ouais, j'ai envie de monter. Si j'avais pu être freelance, garder mon truc, why not? Bon, c'était pas le cas, tu vois. Donc, on s'est dit, c'était plus simple pour facturer, parce que du coup, je bosse avec Billy, donc mon mari. C'était plus simple pour qu'on facture, d'avoir une boîte en commun, etc. Mais si tu veux, c'est même pas l'idée. Je me suis pas dit, tiens, on monte une agence, on trouve un nom à une agence. Enfin, tu vois, même le nom de la boîte aujourd'hui, du jour au lendemain, il a fallu que je rentre les noms pour monter la boîte. Et je dis, on l'appelle comment? Enfin, tu vois, ça a été c'était vraiment juste pour facturer, tu vois. Vraiment, au départ, c'était vraiment se dire pour facturer. Et après, tu te dis, c'est cool. Alors, tu commences à rentrer un peu dans le truc. On se spécialise dans quoi? Parce que tu vois, il y avait quand même plusieurs projets différents. Qu'est-ce qu'on préfère faire? Est-ce qu'on va plutôt dans ci, dans ça? Bon, on est vraiment focus sur Shopify, mais de quelle façon on le prend? Est-ce qu'on veut faire ci? Est-ce qu'on veut faire là? Mais on ne sait jamais, tu vois, ça n'a pas été on va faire une agence, on va développer. Et même aujourd'hui, concrètement, on est deux. Alors, c'est vrai que ça commence à être un peu compliqué parce que du coup, je commence à un peu avoir des freelances avec qui je travaille pour déléguer parce qu'à un moment donné, si tu veux, j'ai plus… Enfin, quand t'es en mode agence ou quand t'es en free, c'est ton temps, c'est l'argent. Donc, si tu veux, à un moment donné, si t'as plus de temps, et comme j'ai décidé aussi que je ne travaillais plus 7 jours sur 7, ça s'est terminé, que j'avais mes week-ends, que quand à 18h, je finis de travailler, je fais autre chose. Si tu veux, à un moment, c'est… Aujourd'hui, la question qui se pose, je vais être très honnête, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a envie de scaler, tu vois? Ou est-ce qu'on a envie juste, ben en fait, ça suffit. Tu vois ce que je veux
ouais,
dire?
Justement, ma question, ça allait être justement, est-ce que quand tu montes une boîte, même si c'était une boîte qui s'est remontée de façon un petit peu avec le hasard de la vie, comme ça, etc., est-ce que on rentre pas finalement dans nos travers de bosser, nouveau projet, on scale, on continue? Parce que toi, t'avais vraiment eu cette parce que je sais pas, ton mari, tu le connaissais avant, t'es déjà mariée avant la...
Non. En fait, on s'est connus après la bibliothèque. Après, en fait, je suis partie aux États-Unis toute seule, en Californie aussi toute seule. Après avoir enregistré, je crois, l'épisode avec Siam aussi, je me suis dit, vu que je commençais à re-rentrer de l'argent, je vais me faire un petit voyage. Donc, je suis partie, quelques mois après, je sais pas. Et du coup, on s'est rencontrés en Californie. Et lui, du coup, bossait. Donc, il est allemand, il bossait en Allemagne, etc. Moi, j'étais à Paris, il est venu à Paris. Mais en fait, tout s'est enchaîné. Et c'est là où je veux dire aussi, et ça, je pense que c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aussi, c'est de dire, mais en fait, il peut se passer des trucs tellement géniaux après. En fait, t'as liquidé une boîte, et en fait, après, j'ai rencontré mon futur mari, ce qui est quand même pas rien. On a vécu, ça fait 2 ans et demi qu'on était full digital nomade. Donc, on a vécu à Bali, on a vécu au Mexique, au Costa Rica, on a voyagé dans le monde entier. Et du coup, donc, mon mari, lui, il était, il travaillait pour l'Allemagne. Après, pareil, lui, il a trouvé une boîte en remote quand on a décidé de prendre nos valises et partir à Bali. Et en fait, ça s'est fait pareil, petit à petit, où lui, il avait déjà monté des projets, etc. Donc, il est assez déjà un peu dans la montre. Mais, par contre, il est pas comme moi. C'est-à-dire que, pour lui, un travail, c'est un travail, en fait. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que ça reste un travail. Lui, il m'a toujours dit, si je pouvais choisir entre travailler et pas travailler, je travaillerais pas, en fait. c'est la différence, je pense. Entre moi qui suis non, lui il me fait redescendre en disant si je dois toujours choisir entre je passe du temps libre ou je travaille, je préfère du temps libre.
Bon, en fait, on a ce côté peut-être plus idéaliste de vouloir aussi peut-être un peu sauver le monde, parce que toi aussi ton entreprise était une entreprise quand même qui avait une mission quand même de bien-être de la planète, etc. Et je me dis parfois à vouloir sauver le monde, à vouloir avoir une entreprise qui a un impact sur le monde, on se perd nous-mêmes, quoi. Et c'est vrai que toi, ton conjoint, il est un peu comme le mien. Hein. On en parlait encore ce midi, tu vois. Il me disait, mais pourquoi tu veux chercher... Quand il me disait, tu pourrais, par exemple, au pif, il me dit, tu pourrais pas faire un petit peu faire la cuisine dans un restaurant, etc. Mathieu, quel sera mon impact? Pourquoi t'as besoin d'un message, d'un impact? Après, il me dit, tu vois, par exemple, si la Biocop, elle cherche une directrice, tu pourrais demander... Mais pourquoi? Je serais directrice de la Biocop de mon petit village? Parce que vous, en plus, qui est là où... Parce que la question, c'était vraiment... C'était par rapport, en fait, maintenant, je comprends que ton mari, lui, est plus... Mon travail, c'est mon travail, donc j'ai... Mais toi, t'es pas rentrée dans tes travers de... Je vais scaler jusqu'à repartir dans une phase de burn-out et de j'en peux plus. Ou est-ce que vraiment t'es ancrée maintenant dans la vraie vie?
Il y a eu des moments, je te cache pas, que j'ai commencé à re-rentrer dans ce truc où par exemple je prends trop de clients, donc en fait je commence à travailler un peu le samedi matin. Enfin tu vois, ça commence vite, hein. Tu vois, c'est un peu samedi matin, un peu si, un peu là, un peu le soir plus tard. Et en fait je me suis tout de suite dit non, attends, stop. Je me suis auto-raisonnée, je pense, pour le coup. Et parce que aussi, j'adore la qualité de vie qu'on a aujourd'hui, tu vois. Et j'ai pas envie de perdre ça. Et je me suis auto-raisonnée, en fait, en me disant, attends, non, là, c'est pas ce que tu voulais. Donc là, t'étais très bien. Donc, ne re-rentre pas dans le truc. Et pareil, parce que le stress aussi, parce que t'as plus de clients, donc plus de pression, plus de trucs. Et donc, toi-même, tu te sens plus stressée. Et en fait, je me suis dit, non, attends, reviens en arrière. Et finalement, je pense que l'avantage, justement, de l'expérience de la bibliothèque me permet aujourd'hui de me raisonner en me disant, non, c'est plus ce que j'ai envie. Est-ce que j'étais heureuse à l'époque? Non. Est-ce que j'ai envie de revivre ça? Non. Et du coup, C'est vrai que c'est là où je pense que c'est un peu l'avantage d'avoir eu cette première expérience et de me dire, bah, en fait, aujourd'hui, je sais ce que je veux et ce que je veux plus. Et bien sûr que tu as toujours, de temps en temps, ce truc de te dire, oh, attends, mais si on pouvait externaliser une partie, on pourrait prendre plus. Et donc, du coup, plus, ça veut dire plus de CA. Et plus... Mais en fait, est-ce que tu as vraiment envie de ça, tu vois? Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne te suffit pas? Enfin, tu vois, concrètement, on vit très bien. Enfin, voilà, c'est pas la question. Bien sûr que tu peux toujours faire plus. Aujourd'hui, après, je suis réaliste par rapport à ce que tu dis sur un impact, etc. Je pense que je l'ai longtemps voulu. Aujourd'hui, je pense que je trouve, en tout cas, moi, ce que je peux apporter ou moi, ce que je peux faire ailleurs. Je l'ai eu dans les voyages, typiquement, sur les deux dernières années. À voyager, à rencontrer des gens, à voilà, être plus ouverte au monde, ce que je n'avais pas été, vu que j'étais un peu enfermée dans mon truc avant. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu, je dirais pas que j'ai abandonné l'idée, on ne sait jamais ce que demain sera fait, mais je suis très consciente que, tu vois, t'as une agence qui fait des sites, on va pas se mentir, t'as pas un impact, quoi, tu vois, voilà, faut être honnête aussi avec soi-même, quoi. Donc,
t'es OK avec ça? T'es aujourd'hui, te lever le matin en faisant les sites, toi, tu te dis, là, j'aime ma vie parce que tu te lèves le matin dans des paysages à chaque fois complètement différents en étant digital nomade. Toi, tu, entre guillemets, hein, je vais dire le mot, tu fais le deuil, même si la vie n'est pas finie, donc il y a peut-être d'autres opportunités. Est-ce que tu as fait le deuil là, aujourd'hui en tout cas, de cette entreprise à visée un peu humaniste, quoi?
Ouais, je pense que j'en ai fait le deuil aujourd'hui. Et parce que, ben, comme tu dis, ben, j'ai passé voilà, les deux dernières années à vivre dans des pays ouf, que je me disais, ben, en fait, aujourd'hui, je bosse. Ce matin, je bosse, mais cet après-midi, on va aller visiter, tu vois, je sais pas, un volcan ou j'en sais rien. Et du coup, j'avais plus ce truc en tête de me dire, faut que j'ai un impact sur le monde, etc. Et aujourd'hui même, on a d'autres projets, tu vois, on a potentiellement un jour avoir des enfants. Donc, si tu veux, je me dis, j'ai d'autres projets qui font que, oui, j'ai fait le deuil, je pense, d'avoir ce côté impact et de me dire, je trouve ailleurs, parce que je sais que c'est beaucoup dans le truc, il faut qu'on ait un métier qui ait du sens, il faut qu'on ait un métier, tu sais, qui aujourd'hui, c'est beaucoup, ça revient énormément, ce côté de recherche de sens. Je pense que je trouve mon sens ailleurs. Que dans ce que je fais, tu vois.
Alors disons que maintenant, en fait, c'est ça, tu ne te définis plus par ton métier, c'est plus j'ai un métier qui a du sens, mais j'ai plutôt une vie qui a du sens. Parce que, qu'on se cache, qu'on va pas se mentir, que ce soit toi ou plein d'entrepreneurs que nous, on avait un métier qui avait du sens, mais notre vie n'en avait plus parce qu'on a passé notre temps à travailler. Toi, tu dis, t'avais plus d'amis. Est-ce que t'aurais voyagé à l'époque et rencontré ton mari quand t'étais à la bibliothèque, tu serais resté à Paris à travailler du matin au soir? Donc, en fait, c'est toi, tu as une vie aujourd'hui qui a un sens et que nous, on a un métier qui a un sens, mais à un moment donné, on s'est perdu dedans et nous, en tout cas, notre vie n'était déterminée que par notre métier. Donc, moi, je trouve ça plus intéressant aujourd'hui, cet équilibre que tu as réussi à trouver entre ma vie pro, mais c'est ma vie pro. En fait, avant, on appelait ça une vie professionnelle. Oui. Maintenant, on appelle ça une vie. ta vie professionnelle, c'est devenu ta vie.
Parce que quand tu, alors, la barrière entre, tu vois, vie pro, vie perso, elle est tellement fine, en fait, que, du coup, quand t'es entrepreneur et que t'as un truc qui te prend tout ton temps, si tu veux, limite, tu passes ton temps sur ta vie pro et ton perso, c'est, faut que ça aille vite, quoi, parce qu'en fait, t'as pas trop envie de passer du temps dessus. Faut vite, quoi, tu vois, les gens, t'as pas le temps d'y voir, t'as pas le temps de boire un verre, non, c'est trop long, ça. Donc, du coup, oui, alors qu'aujourd'hui, je prends le temps de voir mes amis, de faire des week-ends avec mes amis, de voir des gens, de pouvoir, on emménage dans une nouvelle maison, meubler la maison, passer du temps à poncer des meubles, enfin, tu vois, le truc que j'avais jamais fait avant, mais tu vois, des trucs où tu reprends aussi le goût de vivre dans le moment présent, vivre, avoir une vie qui a du sens, c'est exactement ça, comme tu dis, une vie qui a du sens et non pas juste un job, tu vois, parce que faut qu'on, aujourd'hui, moi, c'est un job, tu vois, j'aime mon job, je vais pas dire, non, j'aime ce que je fais, c'est cool, tu vois, je parle avec des gens, j'ai des clients, je parle avec des clients qui sont super, ça me plaît, tu vois, de faire des sites, d'avoir un rendu de, ok, attends, on va pas se mentir, c'était pas le métier, je me suis pas dit quand j'étais petite, oh, super, j'aimerais trop faire des sites internet, non, enfin, il faut, voilà, c'est pas le job rêve, le job idéal, mais c'est aujourd'hui en tout cas un compromis qui me satisfait parce que ça me permet aussi de réaliser tout ce que je fais à côté. J'aurais jamais pu voyager si j'avais eu un job à Paris, si j'avais eu la bibliothèque, si j'avais, tu vois. Aujourd'hui, mon job me permet de voyager, mon job me permet de bosser d'où je veux, tu vois. Là, on est encore en train de se dire, bon, cet hiver, où est-ce qu'on va? On va bosser un peu dans Zanzibar. Enfin, tu vois, ça, j'aurais pas pu l'envisager avant. Et je pense que c'est ça qui fait que aujourd'hui, ça me permet de finalement vivre la vie que moi j'ai envie de vivre et de ne pas subir par le métier que je fais ou par le métier que j'ai décidé de faire. Finalement une vie à côté qui ne me convient pas, quoi.
Ouais. Est-ce que tu ressens une culpabilité? Est-ce que tu as ressenti, parce que maintenant je pense que non, mais est-ce que tu as ressenti au début cette culpabilité un petit peu quand t'es arrivé dans les premiers pays que t'as fait, tu bosses, après tu te dis mais attends, c'est normal, je suis en train de chiller là au bord de à Bali, au bord de la mer, je devrais pas bosser. Enfin moi j'ai ce truc là, mais nous ça fait qu'une semaine, on a que une semaine.
On vous refera peut-être un épisode 3 ans après. Attends, je me mets une pression.
Oui, là tu mets une pression. Mais c'est vrai que moi j'ai ce truc de me dire c'est en fait moi le je suis tellement dans la productivité intégrée dans mon cerveau que je me dis ne rien faire.
Il faut se déconstruire.
Il faut que je me déconstruise à mort. Est-ce que toi, t'as eu ce truc de devoir te déconstruire à mort? Et comment tu l'as fait? Ou est-ce que t'as jamais culpabilisé vraiment de dire, bah non, je chill, quoi. J'ai le droit. Enfin, c'est la vie.
Non, mais alors, faut pas croire. Dans les premiers mois, j'ai envie de te dire, même première année et demie, je vais même être large, hein. Première année et demie, j'étais pas en train de chiller, j'étais en train de quand même penser à potentiellement s'il y avait une idée à Bali qui était quand même pas mal, tu vois, récupérer. J'ai pas chillé et tu passes pas de je fais tout à ne rien faire. Non, je peux pas. Déjà, bon, après, j'ai un tempérament qui. Je ne peux pas rester sur un transat allongé sans rien faire. Ça me gonfle, tu vois. Au bout de 5 minutes, je suis là, on fait quoi, tu vois? Parce que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être active. Et d'ailleurs, mais c'est ce qui est peut-être pas très bon, hein, tu vois. Parfois, c'est bien de ne rien faire. Mais bon, bref. Et. Si jamais j'étais dans ce truc-là, tu vois, quand on est à Bali, effectivement, à se dire on est à la plage et tout, ben, encore, je pensais à des idées, tu vois, parce que j'étais là en mode, oui, bon, c'est bien ce que je fais en free, c'est cool, mais bon, c'est pas un vrai métier, quoi, c'est pas un vrai job, tu vois, c'est pas avoir une vraie boîte, c'est pas un truc. Donc, c'était, attends, j'ai quand même réfléchi à plein d'idées, je voulais amener des trucs de maté, tu sais, le maté, le thé, je me suis dit, ah ouais, mais ça cartonnerait en France, enfin, non, mais tu vois, des trucs. Je me dis, bah, en fait, mais à chaque fois, c'était pareil. À chaque fois, c'était toujours la même chose. C'était que finalement, en fait, j'étais trop épuisée, même un an et demi après. Hein. C'est là où même un an et demi après, où finalement, j'étais fatiguée de me dire, oh, mais ça va être fatigant. Puis tu vas avoir du stock. Et puis après, il va falloir t'épuiser pour trouver des clients qui veulent acheter ça. Puis ça va coûter 10 euros. Donc 10 euros pour te faire un salaire. Non, mais tu vois, tu comptes, faut en vendre combien? Non, mais, oh. Donc j'étais déjà fatiguée d'avance.
C'est tellement drôle ce que tu dis. J'étais en train de faire des calculs savants tout à l'heure aux toilettes, en train de me dire, et si je faisais un truc de conseil, si j'ai par exemple 6 clients par semaine, combien faudrait que je mette comme prix? J'avais ma calculatrice et j'étais en train de faire, je me suis dit, ah ouais, ça veut dire qu'il va falloir que je bosse beaucoup pour avoir un salaire décent. Et hop, j'ai changé d'idée.
Non, mais combien de fois j'étais sur mon iPhone, sur ma calculette, tu vois, à calculer vite fait. Tu sais, faire des calculs de gros, un peu. Des calculs grosso modo, quoi. Ouais, donc divisé par temps, multiplié par... Oh là là, non, ce truc.
Je ne suis qu'à une semaine, je suis encore en désintoxication.
Ah oui, mais là, c'est de la déconstruction folle.
Vous allez l'avoir encore long. Enfin... En tout cas, je pense que vous allez avoir quand même encore un peu de temps, hein, parce que c'est normal, tu vois, vous venez de finir, t'es dans un truc où tu te dis, bah oui, c'est normal, t'as toujours envie d'avoir ce prochain truc, et cette... mais en même temps, comme t'es fatiguée, tu veux pas un truc qui te fatigue trop, tu vois. Donc c'est un peu le truc, t'as pas envie d'avoir un truc qui t'épuise déjà, donc c'est un peu difficile, mais je pense que... Ouais, le fait de compter, puis le fait d'avoir... Ouais, c'est tellement difficile de se poser et de se dire, en fait, je ne fais rien. je ne fais rien, c'est difficile, tu vois. Pour moi, ça l'est déjà dans la vie, parce que je dois toujours faire un truc, et c'est pas... Et même pas que dans le boulot, hein, tu vois. Aujourd'hui, on va faire une rando, tu vois. Si, voilà, plutôt que de rester posé 2 heures à la plage, je me dis, non, allons faire une rando, on va visiter ça. C'est plus actif que juste de rien faire. Mais c'est vrai que les premiers temps... Ça a été beaucoup à me dire non mais c'est bon, j'écrivais des trucs, tu vois, j'avais un blog, j'écrivais des trucs et tout, et je me disais mais non, fait, au bout d'un moment, arrête, parce que... Et quand je disais... Bon, à l'époque, c'était pas mon mari, mais tu vois, quand je disais mon mec, il disait... ouais, j'ai eu une idée. Il partait courir, je me souviens très bien. Il partait courir, vraiment, il partait courir. Je prenais un bloc, j'écrivais plein de trucs et tout. Et puis, quand il rentre, alors, si je faisais ça et ça... Il me dit, regarde, il me fait... Bon, OK, on va prendre l'apéro, si on veut dire. Non, mais c'est juste... Je pense qu'en fait, c'est des schémas, tu vois, que tu as dans ta tête et il faut que tu déconstruises pour arriver à te dire, OK, finalement, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire?
Mais et toi, tu regardes pas, t'es pas consommatrice, toi, d'Instagram, tout ça, parce que tu sais, quand toi, nous, notre métier, c'est être sur les réseaux, mine de rien, quand chacun y va de son j'ai fait 1 million de chiffres d'affaires, j'ai fait tant de trucs, même si tu sais au fond de toi que ça te fait pas du bien, quand tu les vois régulièrement, tu te dis « Attends, c'est trop dommage, on peut faire ça nous aussi ». Toi, t'es consommatrice d'Instagram, tu vois pas tout ce qui se passe et...
Et t'arrives à ne pas te laisser affecter, quoi.
Alors oui, oui, complètement, je suis consommatrice d'Instagram et forcément, tout le monde te montre sa meilleure vie sur Insta. Oui, oui, complètement. En revanche, je pense que avoir travaillé, tu vois, à coup d'État, avoir vu et parlé avec énormément d'entrepreneurs, j'ai dû parler avec, je sais pas, peut-être 200, 300 différents entrepreneurs. Après, je pense qu'il y a ce qu'on te montre, il y a la réalité. Et ça, par contre, je l'ai très bien compris, très vite, en parlant avec des gens qui te montrent sur Instagram que tout va bien, que tout est super, etc., et que beaucoup de gens en sont persuadés, parce que quand tu ne les connais pas, mais quand tu les connais derrière, tu te rends compte en fait la réalité est tout autre. Donc, c'est là où je pense que j'ai réussi vraiment à faire la part du truc, et tant mieux. Et attends, il y a des success stories, et j'ai envie de te dire tant mieux, parce que sinon personne ne tenterait l'entrepreneuriat du tout. Donc, il y a des success stories, et ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, si tu veux, moi, je me dis, en fait, tant mieux pour eux, tu vois, si quelqu'un fait des millions... Mais je sais, en fait, je sais tellement la réalité derrière que ça ne... Tu vois, je me dis pas « Ah, mais c'est génial, ils ont l'air d'avoir une vie super. » Non, je me dis « J'espère que personnellement, ça va pour eux. » Tu vois, je me dis plutôt ça, plutôt que d'être dans le côté... Je suis pas trop... je suis pas dans le truc de me dire « Ah, mais ils montent ça sur Instagram, donc moi aussi, je pourrais le faire. » Tu vois. Parce que je sais que ce qu'on te montre sur Instagram, ce que t'as derrière, parce que je l'ai fait moi-même. Je l'ai moi-même fait quand j'avais la bibliothèque, tu vois. J'étais sur Insta en mode, oh, regardez, c'est super, on est dans le L. Et en fait, derrière, ça n'allait pas du tout, tu vois. J'étais en train de chialer parce que je savais pas comment je pouvais arrêter cette boîte et que, tu vois. Non, mais tu vois, je l'ai fait moi-même. Donc, en fait, les autres, j'espère que c'est pas ça pour tout le monde. J'ai envie de te dire, malheureusement, quand même, pour beaucoup de gens que j'ai côtoyé, avec qui j'ai discuté, c'est quand même beaucoup ça. Donc après, évidemment, quand t'as une structure, et pour en arriver à ce que on fait, peut-être des gens qui aujourd'hui ont des vrais success stories, ils en ont certainement. Avant, ils ont dû certainement passer par des phases assez difficile. Et du coup, est-ce que j'ai envie de ça aujourd'hui? Non, je crois pas, tu vois. C'est là, en fait, où je sais, en fait, le prix à payer, si tu veux. Je pense savoir le prix à payer si tu veux avoir un truc qui fonctionne. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est pas moi mon objectif. Je comprends complètement que l'on puisse se dire, moi, mon objectif, c'est de faire une boîte qui fait des millions de chiffres d'affaires et qui est rentable et, tu vois, qui a je sais pas combien de salariés, etc. Je le conçois complètement parce que j'étais dans cette optique-là. Mais en fait, je sais que si le prix à payer, c'est ma vie perso, en fait, non. Aujourd'hui, c'est non. Et c'est là où je pense que je fais la part des choses et la différence entre ce qu'on te montre. Parce que c'est sûr que sur les réseaux, tu vois, c'est comme vous, ce que vous disiez. Qu'est-ce que tu montres sur les réseaux? Tu vas pas montrer que ta vie, c'est horrible, là, que tu es en train de manger vite fait un truc dégueulasse parce qu'il faut que manger vite. Non, mais tu vois, tu montres que c'est génial et que tout se passe bien et que c'est super. Mais en fait...
Mais ça entretient un fantasme de l'entrepreneur d'un côté qui n'est pas bon, puisqu'aujourd'hui j'avais l'impression que tout le monde veut devenir entrepreneur et qu'en fait je vois beaucoup hein, de gens qui montent une boîte et au bout de... La dernière fois c'était quoi la boîte qui est partie chez notre logicien là?
Oui.
Ils ont monté une boîte
de
snacking, donc ils ont voulu nous rencontrer parce qu'on avait le même logicien, parce que vous avez quitté Snackies, qu'on peut en parler, etc. La boîte elle a duré même pas un an.
Non, même pas.
Parce que dès que tu vois que ça a pas le succès que t'as escompté, bah tu te rends compte que bah pour pouvoir en vivre... c'est pas un long fleuve tranquille. En 15 secondes, la boîte était terminado. Et c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs, en ce moment, je les vois, qui montent des boîtes et qui finalement s'en épuisent très vite. Mais du coup, oui.
Mais on le dit pas non plus.
Mais on le dit pas.
On le dit pas parce
on
que
dit
nous,
pas. On voit aussi beaucoup dans le milieu de l'influence. Il y a beaucoup de personnes influenceuses qui montent une boîte à côté, en plus de faire leur influence. Et puis, elles créent un compte Instagram et puis un jour, genre 6 mois après, 1 an après, parfois 2, hein, mais c'est assez rapide. Il n'y a plus rien qui se passe sur ce compte-là. Elles continuent à être influenceuses sur leur compte. Et quand on voit les questions, mais pourquoi s'arrêter, c'est
zéro.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui te fait une vidéo. Toi, nous, on a toujours été du style à faire, bah, on va vous expliquer un petit peu pourquoi. Je trouve que c'est important que les gens se rendent compte que, en fait, on est des êtres humains, en fait, et on a nous aussi des émotions. On n'est pas que... On ouvre une boîte, ça fonctionne pas, mais on va surtout pas dire le pourquoi, que ce soit financier, parce qu'il n'y a aucune honte à dire que bah, ça n'a pas marché. Mais comme on ne le dit pas, bah, chacun supprime son compte sans... Alors plus jamais, on en parle, dire que plus jamais ces personnes-là, parfois ça fait même 3 ans, 4 ans, ne parleront plus jamais de ce truc-là. Et c'est vrai qu'à contrario, nous, on a toujours été de celles qui vont dire les choses. Mais par exemple, là, cette dernière année où on a fait comprendre... que c'est pas facile, quand tu dis que c'est pas facile non plus, les gens ne te suivent plus. Parce que tu ne montres plus sur les réseaux les filles pétillantes. Tu vois, combien de fois on nous a dit vous êtes plus solaires les filles, vous montrez... Ah, vous étiez tellement solaires à l'époque, maintenant vous l'êtes plus.
On est épuisés. On ne supportait plus l'entreprise. Enfin, tu supportes plus ton entreprise. Tu te réveilles, t'es malheureuse comme les pierres, t'as plus d'énergie, tout te draine, ouais. Tout te paraît, tu dois écrire une newsletter. Pour toi, c'est genre la pire truc du monde parce que t'as l'impression de prendre la journée. Alors que ça, en soi, ça prend quoi, 3/4 d'heure d'écrire une newsletter. Mais toi, t'as l'impression que ça va te faire ta journée. Et du coup, oui, on avait du mal à être sur les réseaux en mode solaire pétillant parce que je l'étais pas. Enfin, tout simplement, je l'étais pas. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat a ce truc un peu... fantasme, liberté, puisqu'on vend ça, hein, être entrepreneur, c'est être libre. À quel prix? Libre de quoi? Libre quoi?
Des horaires uniquement, de, ah, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Et notre père qui est en profession libérale, qui est expert comptable pendant des années, il m'avait dit l'autre fois, et ça m'avait tellement limite choqué, parce qu'il est resté en libéral pendant 7 ans. Comme nous, comme quoi on suit un peu ses pas sans même le savoir. Pendant 7 ans, il est resté en libéral, on ne le voyait pas. Hein. C'est une période de la vie où on ne voyait pas notre père. Il était jamais là. Maintenant, je comprends, je suis grande, donc je comprends qu'en fait, il était aliéné par son travail. Et l'autre fois, je lui dis, mais au bout de 7 ans, tu as décidé de travailler dans un grand groupe pour être expert comptable dans un grand groupe. Et il m'a dit, je n'ai jamais été aussi libre que quand je suis redevenue salariée. Et pourtant, il n'a pas aimé non plus cette période-là, parce que pour d'autres raisons de hiérarchie, c'est différent.
Bah quand t'as été entrepreneur pendant X temps, voilà, repartir et avoir un patron, un chef qui te dit si ça si, bon c'est...
Mais il dit, mais à cette époque-là, quand je suis retournée, il me dit j'avais vraiment besoin de ça à cette époque pour retrouver des week-ends. Il était avec nous, ça c'était la période où on vivait en Afrique. Tous les week-ends, on partait à découverte d'une ville, d'un truc. Après, on est revenu, il est redevenu entrepreneur et c'est reparti comme en l'an 40. Mais c'est vrai que c'était assez choquant de se dire, je me suis jamais sentie aussi libre qu'en étant salariée, alors que pourtant nous-mêmes, nous avons vendu l'entrepreneuriat comme une source de joie et de liberté extrême. Mais comme tu me disais l'autre fois quand je t'ai dit, mais pourtant nous aussi on l'a vendu cet entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu m'as dit? Oui, les 2 premières années.
Oui, non mais c'est les 2 premières années parce que à un moment donné, on est rentré dans le jeu de l'entrepreneur qui vont faire des millions. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'au début, on était toutes pétillantes et tout parce que nous, on voulait juste se verser un SMIC. Nous, à la base, on a commencé à être entrepreneur juste pour ne pas avoir de patron. On se verse un SMIC, on est très contente. Et après, ton entreprise fonctionne et tu rentres dans ce cercle truc de j'ai vu l'entrepreneur là qui a dit qu'elle avait 1 million, qu'elle a levé des fonds. Et d'un coup, tu rentres dans un engrenage de malade mental, de moi aussi, je vais gagner le million. Et donc, plus tu, et ben, comme tu dis, hein, plus tu gagnes ta vie, plus tu as de clients, plus de risques, plus t'as de problèmes, plus t'as de trucs, et ben, tu sombres et tu deviens plus du tout la fille pétillante. Mmh. Si on était resté à vouloir gagner nos 1000 balles, en soi, on serait peut-être toujours petit pétillante.
Grave.
Je pense que votre père, clairement, oui, il a raison. Je vois pas, enfin, à part effectivement le fait de gérer tes horaires et gérer tes trucs. Mais en fait, quand t'es entrepreneur, faut savoir qu'en fait, attends, t'es à ton compte, même dans ce que je fais aujourd'hui, hein. Ça veut dire qu'il faut quand même te dire, calculer pour que il y ait un salaire qui tombe pour payer ton loyer à la fin du mois. Enfin, tu vois, quand même, minimum. Que mine de rien, ben, t'as des clients. Donc, c'est des gens auxquels tu, bah, qui ont payé pour un service, quel qu'il soit, ou un produit, ou peu importe ce que tu leur vends. Mais, en tout cas, qui doivent être satisfaits. Et effectivement, derrière, bah, ta liberté, elle s'arrête. En tout cas, si t'as un peu la tête sur les épaules, à partir du moment où bah, t'as rempli ton contrat, entre guillemets. Donc, pour remplir ton contrat, parfois, malheureusement, c'est ça le problème. En fait, quand t'es entrepreneur, c'est que pour remplir le contrat, bah, y a pas de durée, tu vois. Et le travail, il est tellement extensible que bah, tu veux. Et puis après, évidemment, t'es dans l'engrenage de bah, plus, je veux plus, je veux faire plus. Et de toute façon, il faut plus. Oui, si tu t'arrêtes à te dire, je veux gagner 1 500 € par mois, bon, ben, je pense qu'effectivement, tu peux, et encore, ça peut être difficile, tu vois, dans certains domaines, de te dire, je veux gagner 1 500 € par mois, parce que tu fais vite le calcul. Quand tu veux un produit qui coûte 3 €, j'en sais rien ce que tu peux vendre, mais tu peux vendre, je sais pas, un gadget qui coûte 3 €. Pour arriver à 1 500, compte le nombre de clients que tu dois faire par mois, tu vois, avec ta petite calculatrice, mais tu vois, ça, voilà. Faut... Donc, je pense qu'en fait, il y a vraiment, effectivement, ce côté où on montre l'entrepreneuriat, c'est super, mais l'entrepreneuriat, c'est pas tu ne fais rien et l'argent tombe des arbres. Hein. Concrètement, c'est pas ça. Parce que si on s'attend à ce que ce soit ça, franchement, oui, il vaut mieux être salarié, ça paye bien, t'as des vacances, t'as tes 5 semaines de vacances. Attends, en tant qu'entrepreneur, même là, hein, pour le coup, ce que je fais même aujourd'hui, si je prends des vacances, je les planifie. Donc, je dois planifier à l'avance d'avoir des vacances à telle date et encore… J'en prends pas des masses, que je me dis, je prends les week-ends. Et après, j'essaye de me fixer un peu, tu vois, des vacances ou une semaine partie vraiment, mais quand même, t'es toujours un peu connecté. Enfin, tu vois, t'as quand même un peu ce truc-là. Ou alors, je les organise. Tu vois, j'ai fait mon voyage de Menos cette année, en début d'année, 4 semaines où j'étais pas là. Là, j'ai tout organisé. Ça faisait 6 mois qu'on organisait, tu vois, pour que 4 semaines, personne nous envoie un message, quoi. Mais c'est pas la liberté. Quand t'es salarié, tu vas, tu dis, OK, je veux les vacances de telle date à telle date. Oui, alors parfois, on peut te les refuser, mais t'as 5 semaines, c'est obligatoire. Enfin, tu vois, t'as ton salaire qui tombe à la fin du mois, il est fixe, hein, voilà, il est sûr. Il faut aussi, tu vois, je pense que t'as des avantages et des inconvénients dans tout. Après, ça dépend de toi, ta personnalité. Et ce qui te convient, moi, ça me conviendrait pas de travailler en salarié dans une boîte, tu vois, c'est pas ma personnalité. Je l'ai fait, hein. Avant, j'ai été salarié, dans un gros groupe aussi, et j'ai pas du tout aimé, enfin voilà, ça me ressemble pas, mais je veux dire, effectivement, t'as ce côté un peu entrepreneuriat et le côté paillette et machin, bah c'est pas, enfin, la réalité est tout autre, hein, quand même, enfin, c'est pas ce qui se passe derrière, et je comprends ce que vous dites, quand vous dites, ouais, sur Instagram et sur les réseaux, on te montre que c'est super, mais je pense qu'en fait, c'est difficile parce que comme vous dites, ben quand tu dis ben ouais, je suis entrepreneur et je suis en galère quoi. Ben ça vend pas du rêve, hein. Ça vend pas du rêve, ça vend moins du rêve et les gens veulent entendre du rêve, veulent entendre que ben c'est super et que tout se passe bien. Donc c'est un peu la difficulté et moi je pense en tout cas ce que j'essaye de dire et ce que j'ai dit à tout le monde, les gens qui m'ont même contacté en perso etc, c'est de dire ben voilà, c'est difficile, si tu veux être entrepreneur, c'est difficile, c'est un long combat. Après, tu peux faire des choix qui vont être plus ou moins faciles dans ce que tu fais. Tu peux aussi arrêter, en fait. Et c'est ça aussi le truc, c'est de te dire, bah, tu peux essayer, tu peux tenter des choses, tu peux aussi les arrêter et ne pas avoir honte de les arrêter. Et te dire, bah, en fait, oui, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé des choses. Et ben, bah, ça n'a pas marché. C'est la vie, en fait, ça fait partie de la vie, tu vois. T'essayes des choses, t'as des obstacles, parfois tu les passes, parfois tu les passes pas, et puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de dire pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, parce que tu as autre chose, mais, et je pense que c'est ça aussi qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, on n'ose pas trop dire, comme vous dites, ben, on n'ose pas trop dire qu'on a arrêté parce que c'est un peu honteux ou c'est un peu, je sais pas, tu vois, tu te sens un peu, ben, pas dans l'optique de la nana qui a réussi. Là, je dis la nana, ça peut être le mec, mais qui a réussi, quoi.
Non, c'est clair. Non, c'est ouf. Et toi, là, bon, t'as déjà passé le message, mais toutes les, parce qu'on a eu beaucoup de messages de meufs qui disaient justement que je suis comme vous, je sais pas si je dois arrêter, si nanana. Toi, c'est quoi un message d'espoir à une entrepreneur dans le noir, in the dark? J'adore cette expression. C'est quoi ton message d'espoir justement si elle décide ou pas d'arrêter, hein, mais juste, je suis dans le noir, je suis perdue. C'est quoi ton message d'espoir pour elle?
Moi, j'ai envie de dire que peu importe ce que tu choisis, que tu continues ou que tu arrêtes, en fait, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur d'arrêter. Parce que je pense qu'il y a beaucoup cette peur d'arrêter et de mettre un stop à ce que tu fais. Même si cette chose ne te rend pas heureuse, tu as peur de te dire qu'est-ce qui va se passer après. Je pense qu'il faut pas avoir peur de l'après. C'est ça, en fait, moi, que je veux passer, parce que mon expérience a fait que, je parle vraiment personnellement, mais mon expérience a fait que finalement, bah, tout s'est enchaîné derrière et je suis là où je suis aujourd'hui grâce à la bibliothèque. Alors qu'à l'époque, je te disais, c'est un échec, tu vois. Enfin, ça l'est toujours en soi, la bibliothèque. Mais l'après, tu vois, m'a offert d'autres possibilités. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'après. Ta boîte ne te définit pas, ta boîte n'est pas toi. Et peu importe ce que tu feras, que tu continues ou que tu arrêtes, je pense que vraiment, ça aurait. C'est difficile parce que quand tu dis oui, ça aurait été une expérience et ça t'aura de toute façon apporté quelque chose, tout le monde va te dire non, mais en fait, là, moi, ça ne m'apporte rien du tout, c'est juste un échec, bien sûr, tu vois. Mais en fait, je pense que non, que vraiment, dans la vie, ça t'apporte et ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du chemin et ça fait partie de ce que tu vivras après. Ça sera d'autant mieux et en tout cas, tu auras cette expérience en background.
Ouais, c'est vrai que c'est joli parce que notre amie Claudie, qui est naturopathe, dit toujours on a oublié, dès qu'on on est sorti de l'enfance, nous les adultes, on a oublié que la vie est un jeu et que normalement, on est censé jouer avec justement plein d'expériences et que d'un coup, on est devenu très sérieux et que tout devient très très sérieux. Et donc, nous, on le dit souvent sur la plateforme, n'oubliez pas que la vie est un jeu. Donc, même quand vous êtes en train de vous dire je sais pas cuisiner, jouez, faites des recettes, vous allez les foirer, c'est pas grave, c'est un jeu. Ben là, c'est pareil. C'est prendre les choses, le faire avec sérieux, bien sûr, parce que quand on a une entreprise et que t'es employé, tu peux pas jouer tout le temps comme ça. Mais dire juste, prenez les choses plus légèrement, en fait. C'est ça, c'est, oui, ça va être, et comme disait Claudie toujours, dans la vie, il y a plein de mini-morts, des petits deuils comme ça, c'est des naissances, des morts, etc. Et que, en apprenant à laisser aller, c'est vrai que, sur le moment, on a l'impression que notre vie,
ouais.
Et un peu terminé, genre c'est foutu, je vois pas d'autre avenir, mais il y en a vraiment d'autres. Il y a une mort, il y a une renaissance en fait
mais
derrière.
C'est vrai que merci pour ce message que je prends pour moi, l'entrepreneur dans le noir. Mais c'est vrai que nous avec Marisa, on a 34 ans et depuis qu'on se dit en janvier qu'on va arrêter, c'est incroyable qu'on se dise très souvent. En fait, du coup, notre vie, pour moi, c'était comme si. Bah, notre vie s'arrête quelque part. Je sais bien que je vais pas mourir, je sais bien que la vie va continuer, je sais bien que j'en ai peut-être pour des années encore à vivre. Mais sur le coup, quand on a arrêté, j'ai eu l'impression que pour moi, bon bah.
En termes d'expérience, t'as l'impression d'avoir vécu l'expérience voilà, ultime un peu et que bon.
Coup, bah, j'aurais plus rien. Finalement, maintenant, ma vie va être plan-plan. Pour moi, c'est ça. Je me disais, maintenant, bon. Alors que j'ai une fille de 3 ans, donc il y a encore des années avant qu'elle. Tu vois, j'ai encore plein d'expériences à vivre avec
c'est
elle.
Clair.
Et ben non, pour moi, c'était comme si je suis donc figée dans le temps. J'avais vraiment cette impression que maintenant, la maison où je suis, c'est la maison où je serai toujours. Le mec avec qui je suis, le mec avec qui je serai toujours. Mon enfant.
J'espère en tout cas.
Mais du coup, et que je vais avoir une vie. Maintenant, qui va être voué à être fade. C'est ce que je pensais vraiment pendant un temps.
Mais je pense qu'après, ça dépend de toi. Si je dois encore une fois montrer sur mon expérience perso, tu vois, j'ai jamais fait autant de trucs quand
mais
j'ai
oui.
fini la bibliothèque.
J'en suis sûre. Le pire, c'est que je le sais. En plus, on t'a eu, nous, pendant 3 heures,
mais oui.
Il y a plusieurs mois. Ça nous a fait, tu sais, si tu savais à quel point ça nous a fait un bien fou, mais mine de rien... Ton petit cerveau te joue des petits tours et je sais très bien, on se le dit tout le temps, on rigole, on se dit mais pourquoi on parle comme si on était décédé ou comme si notre vie était là, c'est figé. C'est-à-dire que maintenant je serai toujours à cette place et ma vie voilà va devenir chiante à mourir. Je sais pas pourquoi on pense ça parce qu'il y a pas d'après. Qu'avec Snackies, on a fait ce truc de on arrête et le lendemain on était déjà en train de créer le site Intention et c'était bon. Que du coup tu sentais qu'il y avait un après, alors que là, tu ne sais pas quel est l'après.
Donc du coup, t'as un setback.
Et c'est à la fois effrayant et en même temps exaltant, mais
excitant. Ouais.
Excitant, mais c'est vrai que non, mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis et que en tout cas, il y a une vie après, ça c'est sûr, et elle sera riche en expériences. D'ailleurs, jusqu'à ce que l'on décède, j'espère le plus tard possible, on n'aura que ça, des expériences. Donc, c'est top.
Mais oui, ça fait partie de la vie en fait. Et c'est vrai que c'est ça qu'on oublie souvent et quand on déplace. Pour moi, c'est un peu déplacer aussi le problème de se dire. En fait, on le déplace sur une boîte qu'on veut faire marcher, on met tout son truc dedans, mais en fait, t'es pas dans le moment présent, dans toi, ce que tu veux vraiment. T'es dans je fais monter la boîte, ok. Et du coup, t'as l'impression que du coup, c'est la fin, parce que c'est la fin, en fait, finalement, d'une expérience, comme tu dis, mais après, t'en auras d'autres, tu vois. Et effectivement, c'est jouer, c'est le chemin. Moi, c'est ce que je dis quand je dis, en fait, finalement, la finalité, c'est pas la finalité en soi qui est importante, c'est le chemin pour y arriver et toutes les expériences que tu prends à chaque fois.
C'est vrai.
Et comme tu parles beaucoup de moment présent et tout, est-ce que tu t'es remise à lire après et que t'as lu des livres qui t'ont fait penser à des... Enfin, qui t'ont fait, prendre conscience de choses ou non, pas du tout? C'est juste que toi, d'un coup, t'as une toi-même de toi-même. Parce que sinon, je veux bien que tu partages quelques livres. Je peux prendre. Mais...
j'ai fait un travail sur moi, même avec une psy, etc., pour déjà, moi, être plus en paix, entre guillemets, avec moi-même. J'ai lu aussi pas mal, j'ai commencé à lire, j'ai lu quelques bouquins, effectivement, de, t'as The Power of Now, tu vois, je sais pas en français comment c'est, mais The Power of Now, tu vois, qui fait partie des livres où justement, on te dit que t'es pas assez ancré dans le moment présent, et pour le coup, c'est vrai, tu vois, je pense que t'es toujours dans des projections, futures ou passées, mais très rarement, finalement, dans le moment présent.
C'est le pouvoir du moment présent. C'est le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle que j'ai lu, justement, quand j'étais dans le noir le profond. J'ai lu ce livre et j'ai adoré, moi, ce livre.
Ouais, je trouve qu'il est plutôt pas mal, effectivement. Après, The Happiness Project.
J'ai beaucoup entendu parler. Je l'ai beaucoup
mais,
vu.
Mais ça aussi.
Celui-là, ouais.
Opération Bonheur pour les personnes qui on mettra dans les notes du épisode.
ça fait partie des deux livres que j'ai vraiment trouvé qui étaient assez intéressants pour moi pour justement essayer de travailler sur moi et de travailler effectivement sur mais j'ai repris à lire en effet.
Et moi, j'aime bien finir les épisodes de podcast, parce que d'habitude, on parle quand même beaucoup de foot dans nos épisodes. Mais comme t'as fait quand même beaucoup de pays du monde...
Non, parce que je me suis dit, si Marza oublie, c'est ça que je dirais.
Tu peux quand même nous partager genre une recette, un repas que t'as mangé dans un des pays et que vraiment, tu le recommandes à chaque fois à tout le monde et dire que tu peux même le faire chez toi trop rapidement. Trop bien. Est-ce qu'il y a un truc?
Alors, j'ai envie de dire que c'est mon mari qui cuisine.
Mais qu'est-ce que...
Alors, comment te dire? Non, vraiment, j'avoue que, dans le truc un peu exotique, parce que sinon, je vais tomber dans les trucs un peu classiques, cuisine italienne, ce qui est quand même hyper classique. Je pense quand même que, moi, je suis très mexicain, pour le coup. Ce qui est tacos, je suis très, très fan. Tacos, burritos, j'adore. Donc ça fait vraiment partie des trucs dans mes tops. Et après, on était en Thaïlande, et en Thaïlande, tu manges aussi super bien. Les pad thai, ça reste quand même ça. Ou thai curry, pad thai ou thai curry.
Et du coup, maintenant, tu sais les faire.
Plusieurs, mais
les tacos, tout ça, tu les fais à la maison. Maintenant, tout ça, enfin, ton mari les fait à la maison.
Ouais. On cuisine. Enfin, là, depuis qu'on a un chez nous, lui, il adore cuisiner. Donc, il cuisine énormément. Moi, je fais l'assistante. Si tu veux, je coupe. Tu vois, pour le coup, tu deviens assistante, tu coupes des carottes. Mais on cuisine énormément maison. Et du coup, on a repris des recettes. Ouais. Même au Costa Rica, il y avait aussi le gallo pinto qui était pas mal. Mais on a repris pas mal de recettes effectivement qu'on a mangé. Mais j'avoue qu'au Mexique, tu manges très très bien.
Ah, j'imagine. Mais ça, c'est vrai que c'est une cuisine dont on parle peu sur notre chaîne YouTube. Et pourtant, c'est une cuisine que j'aime, mais à la folie. Et quand on est parti en Irlande, il y avait plus de communautés mexicaines que nous en France, que pour trouver un restaurant mexicain, nous, dans nos régions, tout ça, il n'y en avait pas. En Irlande, on s'est fait plaisir parce qu'il y en avait partout.
Oui.
Des restaurants mexicains. Et nous, c'est vrai que moi, les burritos, les tacos,
et tenus par des Mexicains.
Les tacos et tout, moi, c'est. Mais enchiladas, tout ça, mais moi je suis nachos.
Nachos, ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup ça.
J'aime trop. Ah, ça me donne envie de faire les nachos pour l'apéro.
Oui, grave.
Parce que les nachos à l'apéro avec le pico de gallo et tout dessus, c'est une tuerie. Avec le...
Ah ouais, trop bon.
Mais
trop
nous,
bon.
On a juste pas les jalapeños là.
Ah, c'est vrai. Ouais, nous, on trouve pas. Vous en trouvez, vous, les piments jalapeño en France? Ouais. Vous trouvez ça?
Si, tu en trouves. Alors, je crois que tu en trouves en bocaux. On a dans des bocaux. Mais après, je vais être honnête, hein, c'est pas les mêmes que ceux que tu manges au Mexique. Hein, parce qu'au Mexique, ils arrachent. T'as des piments qui sont vraiment, c'est chaud. Mais ici, tu trouves dans des bocaux, t'en trouves. Mais c'est pas les mêmes.
C'est une tuerie.
Mais c'est vrai qu'on fasse.
Il faudrait qu'on propose une recette de nachos. La dernière fois, on avait dit qu'on devrait proposer une recette de nachos. C'est trop.
C'est tout ce qu'on dit qu'on devrait proposer.
Oui, c'est clair.
N'oublie pas qu'on est aussi fatigué.
Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on propose pas. Désolé, on propose plus de recette parce qu'on est fatigué, on est épuisé, on peut plus.
Merci beaucoup.
Merci
Anaïs.
Beaucoup.
Ça nous a encore fait du bien, décidément. Et j'espère que ça fera aussi du bien aux personnes qui nous écoutent. Et entrepreneurs ou pas, hein, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat.
Parce que c'est notre parcours à nous, c'est notre histoire.
C'est notre histoire, c'est clair. Mais je sais qu'il y a beaucoup aussi d'entre vous qui m'avaient envoyé des messages en disant « Je suis salarié, je voudrais arrêter, mais je ne sais pas comment faire pour quitter ce job et aller vers un autre. » Donc ça finalement, ça va...
À toutes personnes qui sont dans le noir actuellement et qui ont l'impression qu'après ça, il n'y a plus rien qui se passe, mais en fait, nous, on voulait t'avoir au micro pour donner ce truc d'espoir, de dire « Mais il se passe des choses. Regardez, elle s'est mariée. Regardez, elle a un job. Elle a vu plein de pays du monde. Attends,
elle a mangé des burritos au Mexique. »
Il y a quand même une super vie après tout ça, quoi. Donc, gardez espoir.
Voilà. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.
À très bientôt.
À très bientôt.
Merci, les filles.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.